Vous écoutez le libre journal de Serge de Becquet, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct, mercredi 19 octobre de 18 à 21h, en différé jeudi 20, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir. Alors, je regrette une fois de plus qu'on n'ait pas la télévision, parce que vous verriez le marquis Chériguès de Olmeta en personne et en jogging. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais...
Parce que je suis venu à pied de votre martre.
De votre martre. Hein. Ouais. Mais c'est surtout parce que Villepin a lancé la mode.
Ah non, j'ai même pas fait attention. Ah, il est même en maillot de bain, lui. Ça, je l'épargne.
Non, il a déclaré forfait, Serge.
Ah bon? Et alors, tout à l'heure, il avait mis sa capuche sur la tête. Il faisait, on aurait dit, un ziva de...
Ben voilà,
c'est la barbe.
La barbe.
C'est radio.
Bon, alors donc il vous manque la télévision. Vous auriez vu le marquis Chériguès de Olmeta en jogging.
Je vous salue.
Jogging de quelle société?
J'en sais rien, alors là je sais pas.
Bac. Quoi?
Bac plus quelque chose.
Landbac, le pays de derrière.
Étoile rouge.
Bon. C'est curieux. Bien, oui, étoile rouge. Krasnaya Zvezda, c'est ça?
Oui,
Krasnaya Zvezda. Pas la ville.
Ce soir, c'est une soirée exceptionnelle parce que, enfin, pas à cause de moi, mais parce que je reçois un très très grand monsieur, et je le remercie d'être venu nous voir en priorité, si j'ose dire, puisqu'il est venu à Paris pour quelques jours. C'est monsieur Yon Gavrila, qui est une des grandes figures de la résistance chrétienne et royaliste anticommuniste. C'est un résistant roumain. Qui est entré dans la résistance au moment où d'autres en sortaient, puisqu'il est entré dans la résistance anticommuniste en 1945. Et pendant 30 ans, il a lutté contre la Securitate. Il a berné la Securitate, qui est une police qui aurait fait passer, une police d'État qui aurait fait passer la Gestapo pour une police municipale, on peut dire, pratiquement.
Garderie d'enfants,
oui. Et... Donc, il va nous raconter cette aventure extraordinaire. Je signale tout de suite que vous en saurez beaucoup plus si vous vous rendez à trois. Il y a trois conférences possibles. À 8h ce soir, au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Monsieur Yon Gavrila présentera, à l'invitation de Thibault de la Tocnay, et du cercle culturel et amical d'Elisabeth Donnier, une conférence, la résistance armée anticommuniste en Roumanie. Alors, ça se passe 70 boulevard Saint-Germain à partir de 20h15 aujourd'hui même, ce soir. D'autre part, si vous ne pouvez pas être là, vendredi le 21 octobre à 19h30, Monsieur Gavrila donnera encore une conférence dans la crypte de l'église Saint-Sulpice. Et samedi 22 à 17h, il recevra à la Maison Roumaine, 38 rue Ribera, 75 016 Paris, métro Jasmin, ligne 9. Alors, ce n'est pas pour signer des livres, puisque M. Gavrila a écrit quelques ouvrages, mais qui n'existent pas en français. Enfin, il en existe un qui va être épuisé ce soir, certainement. C'est pour parler de son combat et pour parler d'une association qu'il a, enfin qu'il soutient, à laquelle il participe, qui s'appelle LAVOR, Association d'aide aux victimes de l'oppression en Roumanie, dont l'adresse est la suivante. Je vous la donne tout de suite. Boîte 185, 44 rue Monge, 75-05 Paris. Boîte AVOR, A-V-O-R. Boîte 185, 44 rue Monge, 75-005 Paris. Donc on parlera avec M. Gavrila de sa vie de résistant. Ensuite, deuxième chose tout à fait exceptionnelle, et c'est même la première fois, je crois, dans cette émission, on va recevoir un député UMP. L'Union, alors c'est plus... L'Union pour un mouvement populaire.
Oui, c'est ça.
Enfin, c'est donc l'ancien RPR.
En attendant le député socialiste.
En attendant de recevoir un député socialiste, on ne sait jamais, ça arrivera peut-être un jour.
Bien sûr, on va s'en occuper.
On a même reçu des trotskistes dans cette émission, c'est vous dire qu'on est prêt à tout.
On les a même gardés.
Et finalement, ils sont restés. Ça va?
Oui, je tousse et j'éternue, Serge de Bekesh, mais...
Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour m'imiter, je fais ça très bien tout seul.
En principe, c'est moi qui fume et c'est vous qui toussez, alors je sais pas ce qui se passe, vous avez...
C'est ce qu'on disait avec les Manceaux de Mandel, enfin bon, on va pas le répéter là.
Et j'espère que Pierre Descaves, qui est notre autre invité, notre troisième invité ce soir, ne se fâchera pas d'être mis en face d'un député UMP, mais on a pris quand même le meilleur de la crème, puisque c'est Monsieur Jacques Myard, dont les propos sont quand même pas très très imbibés de pensée marxiste, hein, on peut dire ça.
Comme oui,
ça.
Oui, voilà.
Non, on va parler avec lui de l'actualité politique, on va parler du budget, on va parler de l'immigration, on va parler de choses comme ça.
Je vous signale une chose quand même, nous étions un peu en coquetterie parce qu'un jour je lui avais écrit en disant arrêtez de dire tous les trois mots, je dois dire. Et alors je ne sais
alors,
pas si.
Il n'était pas content. Non. S'il dit je dois dire, vous le répéterez, vous le dites. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, alors on parle d'actualité. On va faire un concours. Qui a prononcé les phrases suivantes?
Je dois dire.
Quelles sont les grandes lignes de votre réflexion politique? Alors écoutez bien, qui a dit ça, les grandes lignes de sa réflexion politique? La mise en place d'un quadrilatère de l'humanité, trouver un revenu minimum d'insertion RMI planétaire et mettre en commun l'eau, l'alimentation, les médicaments, les vaccins et l'instruction. Même si on monte les barbelés jusqu'au ciel, les hommes et les femmes qui ont faim, qui ont soif, qui veulent se soigner, qui veulent s'instruire, passeront, et ils auront raison de passer. Je vais de façon socratique accoucher les militants, leur faire comprendre que c'est bien de vouloir se protéger, mais qu'il y a une intelligence de la protection. La ligne Jeanne d'Arc doit être changée pour la ligne Henri IV. C'est une façon aimable de dire que Jeanne d'Arc était une conne, quoi. Alors, qui a fait cette déclaration? Je vous le donne en 5000 si vous voulez. Si vous avez la réponse, les trois premières personnes qui téléphoneront auront mes félicitations.
Je peux essayer?
Non, vous n'essayez pas. Non, personne. Oui, mais il faut pas donner la réponse, mes enfants. C'est pour.
On ne vous entend pas.
Pierre Descaves veut absolument que vous lisiez le Libre Journal. Je suis assez d'accord avec lui, mais c'est pas le moment de notre page publicitaire.
Ça, je vais pas essayer non plus. Je vais indiquer que on dit dans ce message, si les barbelés montent jusqu'au ciel, il se trouve que dans Libération d'hier, 17. Un Africain qui est au Maroc dit que si même on élève un mur jusqu'au ciel, il passera quand même. Alors je voudrais savoir quelle correspondance il y a exactement et dans quel sens entre cette personnalité politique que vous venez de citer et cet Africain interviewé au Maroc hier par Libération. C'est quand même étrange.
C'est étrange. Voilà, donc la réponse. Alors, il y a déjà une bonne réponse de Philippe Barlet. Je ne dirai pas ce qu'elle est parce que j'attends les trois autres pour pouvoir féliciter généreusement.
Que Philippe ait trouvé, ça m'étonne pas.
pour pouvoir féliciter chaleureusement les personnes qui y répondront. Parce que c'est quand même assez étonnant. Hein. Il faut dire que la réponse n'est pas évidente. Hein.
Je crois que c'est
bon,
aussi,
ouais,
mais bon.
Parce que vous êtes journaliste, vous êtes très informé, messieurs.
C'est qu'on a un mauvais esprit.
J'avais alors passé ce concours. On nous pompe pas mal l'air en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, avec la grippe aviaire.
Okay.
Et alors, ce matin, j'ai entendu quand même une chose qui m'a beaucoup...
Ça fait longtemps que je ne peux plus voir les poulets, moi.
Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné, j'ai entendu ce matin sur Europe 1, c'est le directeur des... Enfin, le représentant, ou le directeur, le patron des laboratoires Roche, fabricant du Tamiflu, curlu tutu chapeau pointu, comme dit mon ami le docteur, le professeur Féjean, qui est venu et qui a dit, qui a expliqué en gros que les laboratoires Roche étaient tout à fait disposés à vendre le brevet du Tamiflu. Mais alors, moi je comprends pas, parce que je lis la chose suivante. Les affaires du groupe pharmaceutique suisse Roche, le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique Roche a augmenté de 16% au cours des 9 premiers mois de l'année pour atteindre 25 milliards 442 millions de francs suisses.
Oui, suisse.
C'est pas rien, ça. Environ 16 milliards d'euros. Au troisième trimestre, les ventes ont progressé de 17%, a annoncé le groupe mercredi. L'explosion des ventes de l'antigrippal Tamiflu ne sont pas étrangères à cette évolution, tu parles. Il a représenté un chiffre d'affaires de 859 millions de francs, environ 553 millions d'euros, sur fond de crise liée à la grippe aviaire. Les résultats dépassent les prévisions des analystes. Ils ont été plus de 3 fois supérieurs à la croissance générale du marché. Autrement dit, depuis maintenant un an, on nous dit, oh là là, attention, grippe aviaire, pandémie, ça va chauffer, vous allez tous mourir en toussant. Moi, j'ai déjà commencé, mais il y a longtemps.
Précurseur.
Et il y a un truc qui marche, c'est le Tamiflu. Après, on dit, ah, dites donc, c'est incroyable, vous avez vu, les ventes du Tamiflu ont triplé. On est stupéfait. Et là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en émile. Monsieur Roche, enfin le représentant de Monsieur Roche.
Monsieur Beaubois.
Non, c'est pas Beaubois, c'est son associé.
C'est Hoffmann Laroche, son nom complet.
Voilà. Vient nous dire, on vend. Alors je me dis pourquoi. J'appelle mon ami, mon camarade, le professeur Féjean, en lui disant, professeur, comment expliquez-vous ça? Il me dit, oh, me répond-il par un courriel fort intelligent, ça n'est pas très étonnant si on sait que le professeur Xui, qui est un professeur chinois, vient de faire savoir que le Tamiflu était totalement inefficace dans la lutte contre la grippe aviaire. Pour l'instant, c'est un chinois qui dit ça, ça circule pas encore, mais ça va commencer à circuler. Quand les gens vont s'en apercevoir, ils vont arrêter d'acheter du Tamiflu. Pendant que les imbéciles qui sont pas au courant vont acheter les laboratoires, enfin, le brevet du Tamiflu qui ne sert à rien. Vous m'avez suivi?
Oui, très bien.
Je vois que vous vous faites du souci pour Hoffmann Laroche, Serge, mais c'est pas la peine, parce que c'est eux aussi qui font le Lexomil. Et à mon avis, ça va grimper, ça.
On va se faire du souci pour Goffman.
C'est-à-dire que quand les gars vont découvrir que le Tamiflu, ça ne rien, ils vont être obligés de prendre du Lexomil pour se...
Je trouve que Tamiflu, c'est beau comme un nom de catastrophe naturelle.
Non, on dirait un petit personnage japonais, c'est un personnage de manga.
Oui, peut-être, oui.
Alors, le docteur Kouchner nous dit un auditeur. Non, c'est pas le docteur Kouchner. Ça pourrait, mais c'est pas.
On ne saurait plus.
Christine Boutin, non, ça pourrait, mais c'est pas. La mère agitée nous dit c'est Louis Alliot. Je même pas... Ah oui, Louis Alliot? Non. Non, Valoche, c'est pas ça. Sarkozy nous dit un auditeur.
Oh, non.
Muriel Robin et Guy Bedos. Ah, on s'approche. Nous dit un autre auditeur. Et puis, alors, ben voilà, c'est fini maintenant, parce que tous ont répondu, tous les autres ont donné la bonne réponse, et je la résume en prenant une des bonnes réponses, c'est Jean-Claude Martinez, malheureusement.
Voilà.
Voilà. Et alors, c'est Monsieur Martinez, Jean-Claude, qui est le directeur de campagne de la candidature de Jean-Marie Le Pen à la présidentielle.
Ben, ça commence bien.
Ben, je vous en prie, hein, on n'est pas ici pour faire de l'antilépinisme primaire. Ça va comme ça, hein. Surveillez-vous, Marquis. Hein. Donc, Martinez dit, je lance. Quel est votre rôle dans le dispositif de campagne de M. Le Pen pour 2007? Lui demande le journaliste. Et il répond, je lance sans débat dans les fédérations du FN. Cet hiver, je sème. Et je récolte au mois de mai-juin.
La tempête.
Avec une grande convention pour l'imagination en politique qui adoptera le projet présidentiel. Que fleurisse sans printemps et sans fleurs comme Mao, pourquoi pas. Ça se soigne quand même assez bien, ça.
Oh là.
Je sais pas si ça soigne au Lexomil, mais.
Tamiflu.
Je vais sortir un livre intitulé À tous les Français qui ont voté une fois dans leur vie Jean-Marie Le Pen, où je vais donner le schéma de la campagne, puis je bâtirai le projet de campagne présidentielle sur trois axes. C'est beau la vie, c'est grand la France, c'est fort le peuple. Et c'est Malin Martinez, donc ça il le dit pas. Et c'est très bien tout ça. Moi, il est commissaire général à la stratégie présidentielle de Jean-Marie Le Pen, et je trouve ça très bien. Et alors quand on lui dit les nominations des directeurs spécialisés du dispositif ont-elles commencé, il répond la chose suivante. J'ai l'impression que c'est Marine Le Pen qui va proposer des noms. Jean-François Touzet, Marine, Éric Loriot, Louis Alliot, Olivier Martinelli, tous proches de Marine Le Pen, précise le journaliste de l'AFP qui nous prend pour des... Oui, tous ces gens, ajoute Martinez, peuvent, tous ces jeunes ah bon peuvent faire ça très bien. Bruno Gollnisch ou Karl Lang peuvent participer s'ils veulent aussi.
Hein. Oh, bah on les jette pas quand même.
Ça, c'est sympa. Enfin, si, on les jette quand même. Parce
oui,
que,
oui. Hein, ils peuvent rejoindre
voilà,
le compère Lorient
aussi. Si vous croyez, vous aussi, que les barbelés ne montent pas jusqu'au ciel et que les gens ont raison de venir bouffer chez nous, se faire soigner gratuitement chez nous, habiter chez nous, faire tout chez nous, alors qu'ils seraient quand même beaucoup mieux chez eux. Hein. Il vaut mieux avoir un petit chez-soi qu'un grand chez les autres.
Nous n'avons que 1100 milliards de dettes publiques et je viens de vous donner un document, oui, alors, Serge, dont il a peur qu'on va bondir à 1400 ou 1500. Ça fait à peine 18 000, ça fait à peine un an de salaire.
Je crois que ce serait complètement ridicule. C'est un chiffre qui donne le vertige, dit le canard enchaîné. L'État va devoir emprunter en 2006 le montant historique de 131 milliards d'euros. J'espère qu'ils en perdront un petit peu en partant, je peux en rafler un, ils s'en apercevront pas dans le tas. Soit la moitié des autorisations de dépenses budgétaires. Ça veut dire que la moitié du budget va être financée par un emprunt. Alors vous allez à votre banque, vous voyez, et vous dites ça, vous dites voilà, moi je voudrais vous emprunter la moitié de mon salaire annuel pour boucher les trous des années précédentes. Le banquier vous dit, monsieur, ne bougez pas, le SAMU va arriver.
Non, il fait, c'est comme un oiseau.
Alors, et ce, pour réaménager la dette, coût plus de 80 milliards de francs, d'euros, et financer le déficit budgétaire, près de 50 milliards d'euros. Mais il faut savoir que la dette globale, c'est 1200 milliards d'euros. 1200 milliards d'euros.
Encore du monde.
Ça fait à peu près, c'est l'équivalent de 160 000 francs par tête de pipe en France. En comptant les bébés à la mamelle et les vieillards.
On percevra encore du monde.
Donc c'est pas la peine de faire monter les barbelés jusqu'au ciel. Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Donc bravo, vous avez gagné. Toutes mes félicitations, chers auditeurs. Maintenant. Un mot quand même sur l'affaire incroyable. Si c'était pas une femme, je dirais bien ce que j'en pense, mais je vais rester poli. Madame Alliot-Marie.
Si je pensais à elle.
Qui a sanctionné le général Poncet. Alors, ce qui est très curieux, c'est que le général Poncet, c'est le responsable de l'opération Licorne. Et il semblerait qu'il ait été viré sous les instances d'un autre GIGN qu'il déteste, c'est ce qu'on raconte, je sais pas si c'est vrai, qui est le CEMAT, chef d'état-major de l'armée de terre, dont le nom m'échappe, ça s'appelle Touré ou quelque chose comme ça. Et en revanche, alors le chef d'état-major général, le général Benteja, avait répondu par avance aux accusations lancées par... relayé par Alliot-Marie, il y a un an exactement, le 12 novembre 2004, il avait répondu sur Europe 1 à une interview, et il avait expliqué que il était extrêmement choqué des accusations portées contre l'armée française. Il avait dit, je pense que c'est une manipulation inacceptable de la part des autorités ivoiriennes. Il faut bien voir que nous avons été d'une extrême retenue, et nos troupes ont fait preuve d'un sang-froid exceptionnel depuis le début de cette crise. Il ajoute, nous avons fait le minimum absolu. Parmi les morts et les blessés qu'on nous reproche, il faut bien voir qu'il y a une énorme majorité de pillards, de tireurs qui se cachaient dans la foule. Il explique, il faut bien reconnaître que les autres morts ont été dus à des mouvements de foule, de panique, qui se sont produits à plusieurs reprises chaque fois que nous avons déplacé nos convois, parce qu'effectivement les gens nous serraient de si près qu'il ne pouvait pas ne pas y avoir d'accident. Ponctuellement, quand nous avons dû ouvrir le feu, nous avons toujours fait des tirs de sommation avant et nous avons prévenu. Et quand nous avons dû ouvrir le feu, c'est parce que nous étions en état de légitime défense et que nous ne pouvons plus assurer la protection à la fois de nos ressortissants et de nos hommes. Il ajoute, je suis extrêmement touché quand on parle d'armée d'occupation, parce qu'il avait été accusé de diriger une armée d'occupation, parce que j'ai passé beaucoup d'années en Afrique, je suis très attaché à ce continent, j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, etc., etc. Ce qui apparaît à travers cette histoire, c'est que Alliot-Marie a exécuté un ordre de Gbagbo.
On dit ça.
Alors, il faudrait quand même que les ministres français se posent la question de savoir au service de qui ils sont précisément. Parce que s'ils sont au service de l'étranger, à ce moment-là, il vaut mieux qu'ils aillent vivre, elle est la casse faire naturalisée ivoirienne. Il y en a d'autres à qui je pourrais facilement indiquer un ou deux pays dans lesquels ils pourraient se faire naturaliser. Ça ne changerait d'ailleurs pas. La plupart, ils ont déjà la nationalité. Mmh. Mais c'est absolument inacceptable, cette histoire. Une sanction pareille est rendue publique immédiatement. Alors que ce genre de choses, en général, restent confinées à la famille de la Grande Muette. Il faut rappeler que ce qu'on reproche au général Poncet, c'est d'avoir couvert des subordonnés qui ont tué dans une action armée
un violeur,
un chef de bande qu'on appelait Mahé, et qui était repéré depuis longtemps, puisqu'il y a eu des papiers sur lui. C'était un chef de milice armée qui a semé la terreur et la mort. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la terreur et la mort, c'était pas rien. Alors, on suspend le général Poncet, enfin, on sanctionne le général Poncet, on rend public cette sanction sans réfléchir une seule seconde aux conséquences que ça peut avoir, ou alors en ayant très bien réfléchi aux conséquences que ça peut avoir sur le moral des armées en ce moment, qui est déjà bien atteint. Et pendant ce temps-là, les gens qui ont été virés de Côte d'Ivoire à coups de pompe dans le cul, à qui on a volé tout leur patrimoine, tout ce qu'ils avaient construit là-bas, ils en sont à vivre avec leur RMI en France, car rien n'a été fait pour les accueillir, pour leur savoir. C'est exactement comme l'histoire des rapatriés d'Algérie, on les laisse crever de faim, littéralement.
Ça n'a pas empêché.
Ce gouvernement est un gouvernement de voyous mafieux et de pourris dégonflés.
Madame Malliot-Marie a répondu tout cet après-midi à l'Assemblée à la question d'un député. Elle a répondu tout à fait à côté de la question, avec un culot monumental, les airbags en avant, l'écharpe rouge autour du cou, très élégante. Mais comme si de rien n'était, il n'y aura pas de commission d'enquête, parce qu'il y a un député qui réclame une commission d'enquête. Non, c'est pas la peine.
C'est pas la peine. Là, il s'agit de diffamer l'armée. L'armée est diffamée, donc tout va bien. Et on passe à l'affaire suivante, qui est l'anniversaire du 17 octobre 61, sans doute que Pierre Descaves aura quelque chose à en dire tout à l'heure, et ce sont naturellement les chaînes de Radio France, c'est-à-dire les chaînes d'État, c'est-à-dire les chaînes que nous payons avec nos impôts, qui débagoulent pendant des heures et des heures sur l'affaire du 17 octobre 61.
Un prétendu assassinat de centaines de milliers d'Algériens qui défilaient dans les rues de Paris, alors que... c'est vrai, Pierre a raison de me corriger, des centaines de millions d'Algériens qui ont été assassinés par la police française alors qu'ils défilaient pacifiquement dans les rues de Paris. Je rappelle quand même qu'on était en guerre contre l'Algérie et que c'était donc des ressortissants d'un pays contre qui on était en guerre qui défilaient armés sur le pavé parisien.
Après avoir assassiné 21 policiers d'affilée. Mais voyez, Serge, comme on est courageux, comme on est gonflé sur Radio Courtoisie. On fait 20 secondes là-dessus. Mais moi, hier, sur France Inter, Radio d'État, je me suis tapé une heure, et c'était la deuxième heure consécutive de Monsieur Mermet, dans le cadre du libre débat entre la gauche et l'extrême gauche que nous offre la Radio d'État. Deux heures consécutives, deux jours consécutifs, et nous, on expédie ça en 20 secondes, parce qu'évidemment, on a d'autres choses à traiter, et surtout, on n'est pas financé par les impôts des Français.
Il faut savoir aussi que M. Chirac va se rendre pour la Toussaint, l'anniversaire de la Toussaint Rouge à Alger, visite officielle effectuée dans le cadre du traité d'amitié franco-algérien qui sera signé avant fin décembre. Ce sera la visite de la honte et du déshonneur, dit Alain Sanders dans présent. Et à propos... Oui, on va en parler, Pierre, mais tu peux pas prendre la parole maintenant parce que t'as pas de micro, c'est aussi simple que ça. On va en parler. À propos de présent, je voudrais vous conseiller, et vraiment vous conseiller très 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 fortement de lire, d'acheter, vous faire envoyer, moyennant la modique somme de 1,50 € par exemplaire, le numéro du mercredi 19 octobre 2005.
Mais il est encore temps de l'acheter chez son marchand de journaux. C'est le numéro d'aujourd'hui.
Ouais. Où il y a un papier prodigieux d'intelligence et d'astuce, comme souvent, mais celui-là, c'est vraiment un sommet, à la fois dans la mise en page, dans le voisinage avec un autre article, un papier de Jean Madiran sur la contre-réforme et le pape. Vraiment, c'est un modèle d'intelligence journalistique. Je vous recommande de lire. Ne croyez pas que ça concerne que la contre-réforme et le pape, pas du tout. Ça concerne à la fois ça, et puis la colonne qui est à côté, qui est intitulée « Nouvelles du front ». C'est vraiment un très très grand journaliste, Jean Madiran.
Je vois la SNCM en dessous, Serge, et je me dis que je pourrais peut-être céder mon siège dans une minute à notre ami Pierre Descaves, si vous me permettiez pendant cette minute de dire un mot et de la SNCM et du Libre Journal. Parce qu'à la vérité, j'ai fait un long chemin uniquement pour dire à nos auditeurs recommander à nos auditeurs le numéro 360 du Libre Journal. Et je voudrais m'adresser particulièrement à ces gens très gentils, très sympathiques en général, qui m'achètent le Libre Journal au numéro, ou qui ne me l'achètent pas, et qui me disent « on ne peut pas s'abonner à tout ». À quoi je leur réponds, non, il faut pas s'abonner à tout, il faut laisser tomber les canards boiteux, il faut faire des comparaisons, et voilà un élément de comparaison que je leur donne. Et je vais pas nous comparer ni à Présent ni à d'autres journaux de la famille politique, mais aux Parisiens. Tout le monde a entendu, parce que tous les médias audiovisuels ont repris ce scoop sensationnel du Parisien de lundi sur le coulage et les trafics à la SNCM. Vous avez tous entendu sur une radio quelconque reprendre ça. Alors c'était donc dans le Parisien de lundi 17. Et qu'est-ce que je lis dans le Libre Journal daté du 15 en page 6, titre SNCM, la morale en déroute. Et je vous lis trois lignes. Les abus y sont paroxystiques, sureffectif important, sous-emploi des bateaux, grève permanente, relative anarchie, coulage, un serveur sert au bar ses propres bouteilles et encaisse pour son compte. De la même manière, Libération, le lendemain, mardi 18, nous offre un petit encadré de Monsieur Forcari, qui passait même à mes yeux aussi pour l'homme le mieux informé de ce qui se passe au paquebot à l'intérieur des mouvements internes au Front National, et qui nous révèle donc mardi 18 que Monsieur Alliot va remplacer Monsieur Lang comme numéro 3 du Front National. Alors là, on n'a pas un petit encadré hésitant le 18, le 15 encore, le numéro 360 du Libre Journal, daté du 15 octobre, on a deux pages extrêmement denses qui présentent, avec pas mal d'objectivité, j'ai trouvé, et beaucoup d'informations, la personnalité de Monsieur Louis Alliot. Voilà, alors, chers auditeurs, qui ne voulaient pas vous abonner à tout, vous avez bien raison, et vous aurez encore plus raison d'envoyer de 5 euros ou un carnet de timbre pour, en commandant le numéro 360 et vérifier ce que je viens de vous dire, ou mieux encore, en envoyant un chèque de 100 euros à SDB, 4 Place France List, 75-010, Paris, j'ai dit.
Il est remarquable. Oh. Le tout. Et puis j'ai dit, vénérable maître. Non, pardon, il a dit j'ai dit. Merci, mon petit Patrick, vous êtes très très bien. Je vous réinviterai une fois prochaine.
Merci, Serge, bonsoir.
Alors, un message très important concernant Radio Courtoisie. Non, je vois mon camarade Franck qui est perdu dans la contemplation de son écran vidéo, enfin son écran d'ordinateur. Oui.
Le 6 novembre, nous célébrerons le 18e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Dimanche 6 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez déjeuner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Daudé. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 50 euros par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au dimanche 6 novembre à midi, pour déjeuner ensemble à la Mutualité et décerner le prix Daudé 2005, 18e anniversaire de Radio Courtoisie.
Oui, alors, on sera à ce déjeuner. Vous y serez marqués, vous aussi, j'espère.
Oui.
Bah, bien sûr, je vous en prie, parce que c'est indispensable que nous y soyons. Que nous y soyons.
Bien sûr.
Que nous y fusions aussi, si vous voulez, mais enfin, c'est moins joli, quoi. Que nous y soyons, parce que ça nous permet de rencontrer les auditeurs et éventuellement d'essuyer les salves de reproches qui ne manqueront pas de nous être adressées. Peut-être quelques félicitations au passage. Mais c'est surtout indispensable parce qu'il faut montrer l'importance de Radio Courtoisie dans le combat de la langue française. Bon, je suis pas le mieux placé pour parler de ça.
Moi non plus.
Je suis quand même, écoutez, vous appartenez à la meilleure aristocratie où on parle un français charatier. Moi, je suis...
Comme une vache d'Espagne.
Donc, ça sera... Et surtout, c'est le 18e anniversaire de Radio Courtoisie. Donc, enfin, on va pouvoir se livrer sur Radio Courtoisie à des actes qui sont interdits quand les personnes ont moins de 18 ans. Voilà, et ça va être très sympathique. À la table du Jacques Derrida. Pourquoi vous regardez avec cet œil noir là?
Non, parce qu'à 20h, il faut que je sois à l'opéra, on aura fini. Oui.
Bah, pour un déjeuner, je pense, oui, qu'on aura fini quand même. Je sais bien que vous avez l'habitude de faire des déjeuners copieux, mais enfin, à ce point-là. Surtout que c'est pas le genre de la maison, le déjeuner copieux. Je le dis, hein, je le dis parce que c'est la vérité. Si vous pouvez prendre un petit sandwich en vous rendant au déjeuner. Tu viendras, Pierre?
Probablement,
bon. Oui. Ça serait rapidement.
Ça sera à votre table, alors, si j'ai bien compris.
Ah, ben ça, vous choisissez. Si vous voulez venir à ma table, il faut le demander officiellement à l'organisation.
Sinon, je suis où?
Sinon, vous êtes à une table. À votre table, peut-être, je sais pas. Non, venez à ma table.
D'accord. Je vais à votre table, c'est bon.
Donc, à la table de chaque directeur d'émission, il y aura des personnalités, en plus des invités ou des auditeurs de Radio Courtoisie, qui sont les personnalités les plus importantes. Il y aura des personnalités moins importantes parce qu'elles cotisent pas, mais plus connues. Voilà. Et alors je sais pas qui jouera à ma table, mais ça sera intéressant. Il y aura déjà Pierre Descaves, il y aura le Marquis. Je sais pas si Goffman voudra venir. On va lui poser la question. Et c'est surtout ce qui est incroyable d'ailleurs, c'est de voir à quel point notre radio est en train de prendre une importance. Alors ça, vous me racontez chaque fois que vous sortez dans le monde.
Bah, j'en parle jamais et on vient m'en parler.
Ouais. Les gens viennent nous en parler. Et j'ai appris que sur les moyens en dehors de la FM, comme TPS ou l'internet, c'est extraordinaire le nombre de visites. On appelle ça des visites, qu'à cette radio. Et je suis très content que ça se passe comme ça, parce que à 18 ans, c'est la majorité. Et pour une fois qu'on a la majorité.
On peut nous faire la course quand c'est fait.
Voilà. Donc, on vous attend tous le 6. C'est ça, c'est
un dimanche.
Pour déjeuner ensemble.
Pour déjeuner ensemble.
À l'occasion du prix d'OD. Oh, cette petite taquinerie, c'est pas bien méchant. Ouais, pas...
Ouais. Voilà. Pour nous, c'est le prix d'OD.
Pour vous et moi, oui, c'est le prix d'Odé. Ah ben voilà ce qu'on peut. Alors Victoria, vous allez l'avoir ce prix d'Odé?
Ah, vous n'allez pas recommencer avec ça.
Vous aurez le prix d'Odé.
Je parle mal, vous voyez. Je
tiens, voilà ce qu'on peut. Vous savez qu'il y a le Goncourt, il y a un faux Goncourt.
Oui, il y a Goncourbis. Oui.
Donc l'année prochaine, je vais lancer le prix d'Odé. Là, j'ai des chances de le décrocher pour le directeur d'émission, le moins maigre de Radio Courtoisie. Bon, alors maintenant on va donner la parole sérieusement à Monsieur Gavrila, mais avant je voudrais l'accueillir par une musique qu'il reconnaîtra. Alors c'est un disque qui s'appelle Cantech de Dragoste, c'est comme
chanson
ça qu'on...
d'amour.
Chanson d'amour. Et la chanteuse s'appelle Maria Leche. Et cette chanson-là s'appelle Cantech de Catania.
Chanson d'armée,
voilà. On n'a pas envie de marcher au pas, mais c'est une belle chanson. Et vous savez, moi je trouve qu'on nous bassine tout le temps sur les radios d'État et autres avec la nécessité de la musique fusion. Il faut écouter des musiques qui viennent des pays exotiques et tout. Alors on nous balance des... Ah bon, vous savez ce qu'on nous balance, c'est pas la peine que j'insiste. Je trouve qu'on nous balance pas assez de Maria Leche et de belles chansons des Cantech de Dragoste.
Ça manque de tam-tam.
Ça manque un peu de tam-tam, oui. Mais moi je préfère quand même, oui. Le tam-tam, je suis pas... Manon fanatico, mi piace, mais bon. Et puis, après je vous ferai écouter, alors, tout à l'heure je vous ferai écouter une chose absolument introuvable. Pour la bonne raison que ça n'existe plus, je crois, en tout cas pas sous cette forme, c'est... Ah ben non, je le dis pas. Vous verrez. C'est ça. Oui. Si vous arrivez à écouter la musique, l'air que je vais vous passer, sans avoir la larme à l'œil à la fin, vous êtes un bloc de glace.
C'est connu, Adam.
Ah ben...
J'étais jeune homme.
Ian Gavrila est né en 1923 en Transylvanie, ce qui tendrait à prouver qu'il n'y a pas que les vampires
au milieu de la terre.
Au milieu de la terre de Transylvanie. Au milieu de la Roumanie.
Près de les plus grandes montagnes de Roumanie, le mont de Fogaraș.
Fogaraș. Alors, c'est une terre de montagnards, c'est une terre de forestiers.
C'est une terre aussi montagnarde, aussi d'agriculture,
oui.
Près des montagnes, bien chose.
Vous étiez de quel milieu social?
Les montagnards, notre montagnard, sont de tout. Sont des hommes des montagnes, chasseurs, l'industrie du bois, et agriculteurs.
Mais au temps du régime communiste, est-ce que vous apparteniez à ces gens qui avaient des origines saines?
Oui.
Oui, vous aviez des origines saines.
J'ai pouvé me réaliser dans le régime.
Parce que il faut dire que, enfin, c'est ce que vous m'expliquiez tout à l'heure, c'est que il y avait des catégories de citoyens, enfin, en Roumanie communiste, et il y avait donc les citoyens qui étaient d'origine saine, la fiche d'ouvrier.
Le régime communiste avait un parti en classe sociale, ou bien en catégorie plus différente. Un homme qui était né dans une classe ne pouvait entrer dans une autre classe.
Alors vous étiez de la caste des origines saines.
Oui,
paysans et ouvriers.
Paysans.
Si vous aviez été fils de bourgeois, vous auriez été de la caste des exploiteurs.
Mon parent, aussi comme ancêtre, n'avait pas des serviteurs, des paysans libres.
Voilà. Donc vous êtes né en 23. Au début de la guerre, vous avez 16 ans.
Pendant la guerre, j'étais à une école militaire des chasseurs des alpins. En ces qualités. En 1944, à la fin de la guerre, j'avais lutté contre l'armée allemande et hongroise dans les montagnes de l'ouest de Roumanie. Et d'après la guerre, étudiante à deux facultés d'agronomie et d'académie économique. Et immédiatement d'après la guerre, comme aussi était la plupart des étudiants de ce temps. Et une chose curieuse pour nous. Nous luttons et allongeons les ennemis allemands et hongrois de notre
éloignés
pays.
Pas, pas, oui.
Et en dos de nous, l'armée soviétique conquérait notre patrie
sans tirer un coup de fusil.
Vous avez combattu les Hongrois et les Allemands pour les chasser du territoire roumain, et pendant que les Russes entraient sur le territoire roumain sans aucune difficulté. Mais mieux que ça, l'accord des autorités, puisque vous entrez à ce moment-là dans une autre résistance, qui est la résistance clandestine contre les communistes.
Et la résistance roumaine a entré en active un peu d'après. Nous espérions dans cet temps que l'État Deluier, l'Allemand, le CEOA, vous, les Français.
Oui, que nous, on viendrait à votre aide.
Ne pouvait laisser la notre pays qui dans une situation d'être conquéri par une seule par le régime communiste que les Roumains connaissaient mieux le communisme que les autres
nations d'Europe. Monsieur Adam,
nous étions
au contact
voisins
de l'Union soviétique.
L'armée qui a parcouru pendant 3 années dans l'Union soviétique, on vit les communistes dans
une grandeur naturelle. Il faut dire que la Roumanie était entrée en guerre en 1941 suite au fait que l'Union soviétique avait arraché une partie de la Moldavie, ce qui constitue aujourd'hui la République de Moldavie, et donc
qui était un territoire roumain.
Roumain, en même temps que la Hongrie arrachait le nord de la Transylvanie. Donc la Roumanie entre en guerre le 22 juin 1941 pour récupérer ces territoires. Et donc l'armée roumaine a poussé cette guerre jusqu'à Stalingrad, où d'ailleurs mon grand-parent paternel a combattu.
Ah oui.
Et aussi une autre chose, étant voisine avec l'Union soviétique, notre pays, se sont réfugiés soviétiques, et qui sont
pas quelques Russes
qui vont parler. Qu'est-ce que c'était dans cet régime?
Il faudrait peut-être rappeler à nos auditeurs qu'un des premiers à avoir démasqué le communisme et qui y avait adhéré, c'était un Roumain d'origine qui avait écrit en français, Panaïti Strati, qui avait écrit en 29 vers l'autre flamme, document tout à fait intéressant.
J'étais enfant. Et quand un concitoyen de mon village avait réussi de traverser la mer Noire en Turquie et était venu chez eux, la casa, comme ça s'appelle.
Chez eux,
à la maison. Et il racontait des mondes de cadavres. Tous les produits agricoles.
Tout ce qu'ils produisaient était confisqué.
Il ne restait rien.
Donc c'est en fait la tactique connue des bolcheviks d'organiser la famine comme en Ukraine.
Il n'était pas cru.
On n'a pas cru ce qu'il racontait. Comment avez-vous décidé d'entrer dans la résistance anticommuniste? Parce que vous étiez tout jeune, vous avez 20 ans.
La résistance romaine fut active quand n'était pas un espoir. Un autre espoir de résolver bien la situation de Roumanie par des méthodes démocratiques, aussi comme nous jugeons là dans Bien dit.
C'est-à-dire que vous ne pensiez pas que par les voies électorales normales, on pouvait arriver à restaurer la souveraineté
romaine.
Une élection organisée en 1946.
Une élection en Roumanie avec tous les gouvernements communistes, avec la police communiste, avec une seule partie communiste en Roumanie, le résultat.
Le slogan électoral gagnant fut ce n'est pas important qui vote, mais qui compte les votes.
C'est le mot de Staline.
Ils ont fait Roumanie résistance, tout simplement.
Oui, c'est ce que je pensais. En quoi ça consistait, cette résistance?
Dans tous les monts, montagnes de Roumanie, les militaires qui sont débloqués et encore actifs, se sont décidés de lutter contre l'administration communiste, et presque l'étudiant et les élèves de lycée et les paysans, les intellectuels, les
villages
et aussi des villes.
Mais alors, comment il y avait un mouvement de fond, donc c'était le peuple roumain qui était en gros dans la résistance.
Le peuple roumain presque tout.
Alors, comment expliquez-vous l'échec de la résistance pendant aussi longtemps?
Mais nous, dans ce temps, nous étions dans la situation de lutter contre un monstre de pouvoir, d'après les Tchécoslovaques, jusqu'à Vladivostok, jusqu'à la Chine entière dans ce temps, c'était un seul bloc. Nous n'espérions pas de vaincre, mais
c'était la seule chose à faire, le devoir
de lutter.
Comment expliquez-vous alors que le pouvoir communiste ait trouvé au sein du peuple roumain des gens qui ont accepté de collaborer avec ce pouvoir de terreur? Par exemple, les gens de la Securitate, qui était la police politique roumaine, qui était un organe de terreur. Comment expliquer qu'il y ait des Roumains qui aient accepté de trahir leurs frères pour entrer dans cette...
Vous les pensez pendant quelques ans sur l'occupation d'Allemagne, vous
Il y a quand même une différence, à mon avis.
Dans tout le peuple, ce sont des personnes qui n'ont pas des principes, qui n'ont pas une morale, une minimum morale, qui sont prêts de se vendre pour une paix.
Et vous me disiez aussi qu'il y avait le problème, c'est que la plupart des dirigeants des organes, ce qu'on appelait les organes en Russie, je ne sais pas si c'est la même chose en Roumanie, donc la police d'État, n'étaient pas vraiment des Roumains en réalité.
Oui, tous les chefs dans l'administration locale, tous étaient des personnes qui sont nommées par les
les soviétiques.
Les soviétiques.
Dans et qui avaient été formés en Union soviétique.
Un conseiller soviétique qui dirigeait et qui avait le dernier mot dans, dans cette...
C'est un Gauleiter, ce qu'on appelait...
Qui commandait, qui... qu'est-ce qu'on devait faire dans cette... Et qui devait chasser dans les prisons, dans les camps de travail forcé, et bien tuer sans autre condamné ou bien né condamné.
Vous apparteniez à un mouvement qui était un mouvement chrétien, vous dites chrétien parce qu'il y avait des orthodoxes et des catholiques.
Chez nous, en Roumanie, la majorité sont orthodoxes, mais dans Transylvanie, était par cet temps, par 1948, une église gréco-catholique roumaine qui appartenait de Rome. Et qui cette église fut détruite ainsi quand en cette année 1948.
Et il faudrait ajouter que tous les évêques de cette église furent jetés en prison et ils refusèrent de revenir à l'orthodoxie, donc, comme on disait à l'époque.
Une résistance chrétienne, on l'a chrétienne, dit, et royaliste aussi. Alors ça, c'est encore plus étonnant, je dirais, parce que...
Dans toute la Roumanie, était une associée de la résistance chrétienne avec la résistance nationale.
Alors, cette résistance nationale, cette résistance royaliste, elle avait l'espérance de voir le roi revenir et reprendre en main les destinées du pays.
J'y croyais dans ce temps que les pays de l'Ouest ne laissera pas l'Europe pour toujours dans les mains de l'ours soviétique. Non pour nous,
oui,
mais pour
sûr.
Voi.
Oui, pour nous, pour l'Occident.
Je me demande aussi aujourd'hui pourquoi Staline n'avait pas nulle part le courage d'entrer sur vous.
Mais ça, c'est une question qu'on s'est toujours posée en réalité. Alors, on parle de Yalta, on parle de... Mais moi, je crois qu'il y a une dimension métaphysique dans cette peur, dans cette hésitation de Staline. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus fort que la politique qui lui a interdit d'aller plus loin.
Pour nous, ne restez pas dans ce temps. Un autre choix.
Quelle forme prenait ce combat?
La sécurité avait sa armée spéciale recrutée par des hommes
d'origine étrangère.
Le chef était toujours étranger et qui ne savait seulement
pas parler le roumain.
Mais les pauvres soldats étaient roumains. des soldats qui ont parti de leur maison pour faire le service armé comme la tradition, notre tradition dans tous les pays. Votre arrivée en Roumanie, votre décision
d'intervenir et de venir nous aider.
Nous luttions contre cette armée. Pendant un an, pendant deux, pendant trois, et comme dans le groupe Fagarachan, dans laquelle j'avais lutté, pendant cette année. Et dans ce temps, nous sommes mûris.
Nous sommes morts.
Nous sommes morts.
Un par un.
Il y a un exemple. On parlait tout à l'heure du rôle des étrangers dans l'asservissement du peuple roumain. Il y a un exemple qui est frappant, c'est le cas d'Anna Paucăr.
Alors, c'est les ministres des étrangères de Roumanie de cette temps, mais des personnages plus importants pour cette lutte. Chez nous, à Făgăraș, à Raion, c'était un personnage, Izu Averbuch, Brașov Stalina.
Donc, on avait baptisé une ville roumaine qui s'appelle Brașov, la ville Staline. Et donc, le commandant de région.
Vous connaissez de Bilanici.
Comment il s'appelait?
Bilanici. Je ne sais pas,
c'était pas un Roumain,
Roumain.
Le ministre de l'Intérieur
était Kishi Dragiș.
Il n'est ni orthodoxe ni catholique non plus.
Non.
Non, du tout. Et le chef de la sécurité.
C'était Nikolski. Voilà. Nikolski, un autre personnage important dans ce temps, était Pantiușa Bonnarin.
Ah, Bonnarin.
Qui savait.
Ministre des Forces Armées.
Avait nommé. Par un nombre roumaniste, Gheorghe Pintilie. Il fut le
Mais parce que tous ont des identités camouflées. Ils ont leur nom à eux, et puis ils prennent un pseudonyme. Ils changent de nom, en somme.
Et ils commandaient les.
Ça passait mal. Donc pour qu'il règne, il se naturalisait. Donc c'était des gens habitués de la conspirativité qui venaient tous de Moscou, membres vétérans de la Troisième Internationale communiste.
Comme les voyageurs de la révolution.
Bien sûr, des révolutionnaires de profession.
L'arrivée de Ceaușescu, qu'est-ce qui se passe au moment où Ceaușescu arrive vos affaires pour vous.
Pour la résistance roumaine, quand Ceaușescu avait pris le pouvoir, la résistance était fusillée, était détruite. Et pour nous, le régime de Ceaușescu était un enfant, à côté de Gheorghiu Dej, à côté de Pantiușa Bondarenko avec Nikolski, bonne race. Ceaușescu
était de quelle région, lui, en Roumanie?
Il était d'Olteni. Donc c'est une région du sud, mais pas très éloignée, ou si, un peu.
Non. Et pendant cette année, il fut un responsable aussi comme tous les autres. Il a fusillé avec propre main des paysans qui n'ont pas voulu faire la collectivisation des terres.
Est-ce que vous étiez au courant en Roumanie, est-ce que les Roumains étaient informés à l'époque de Ceaușescu du fait que en France, Ceaușescu était considéré comme un homme d'État parfaitement respectable, il était reçu, on allait le voir, vous le saviez ça?
Toujours les communistes ont besoin de présenter le régime comme une chose éclatante, une réussite. Et chez nous, pendant cette année, étaient plusieurs personnalités qui viennent ici, et aussi de grandes...
Général de Gaulle, Nixon...
Oui, c'est ça. Et beaucoup de journalistes aussi. Ils recevaient énormément de journalistes qui après faisaient des papiers...
Dans le Figaro. Oui.
Dans des journaux inattendus, comme le Figaro, où on était quand même un peu surpris.
Il avait vraiment fait une...
Si on n'avait pas su que les auteurs de cet article étaient reçus régulièrement dans la maison privée de Ceaușescu, au bord de la mer, dans le Saint-Tropez roumain, on n'aurait pas compris pourquoi ils étaient aussi aimables. Mais bon, on ne peut pas insulter la personne qui vous a...
Georges Marchais, hein, effectivement.
Enfin, Georges Marchais...
C'était pas surprenant.
C'est quand même la moindre des choses. Il va rendre visite...
En parlant de Ceaușescu, peut-être que M. Gavrila voudrait dire que pendant ses recherches dans les archives de la Securitate, recherches récentes, qu'il a parcouru pas moins de 124 volumes de documents concernant la bande Gavrila, comme on l'appelait à l'époque, il a trouvé des feuilles blanches. Et c'était marqué dessus, feuilles blanches. Et donc, M. Gavrila suppose, et il a des renseignements, comme quoi ces épisodes correspondaient à la période où la traque de la bande Gavrila avait été coordonnée par Nicolae Ceaușescu lui-même à l'époque.
Alors général. La bande Gavrila, c'était l'appellation du groupe de résistance.
Du groupe de résistance.
Aussi comme chez vous, vous avez de là et les Allemands font ceux qui étaient dans la résistance avaient le nom de bandits.
Oui. Et de terroristes. Monsieur Gabriel, je vous remercie d'avoir pris la peine de venir nous voir. Je vais vous libérer parce que vous avez maintenant la conférence au Centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, je le précise, parce que vous pourrez, si certains de nos auditeurs veulent vous rejoindre, d'abord ils pourront vous voir. Or, vous nous avez dit au début de votre intervention que vous avez 82 ans, et si le ciel me fait à 82 ans comme vous êtes, j'aurai beaucoup de reconnaissance, parce que physiquement, il faut voir M. Gabriela, il est un centre de santé.
Je voulais le dire, oui.
C'est un bloc de granit, d'un granit des Carpates, probablement.
Encore quelques mots sur ma présence ici. C'est une chose presque miraculeuse, bien dit. J'étais condamné à mort. J'ai fait un an dehors de la liberté pendant 30 ans.
Et condamné à mort dès 1951.
J'étais à ce qu'on se caché en Roumanie pendant cette année, et quand le président Nixon de l'État-Unis avait sorti en visiter la Roumanie en
1969
avec sa suite est venu en Roumanie un prêtre gréco-catholique qui était en l'État uni, Mircea Toderic, et qui par par ce miracle il me
donc il a parlé l'entourage du président Nixon.
Non, il fut mon prêtre.
Ah oui, il avait été votre prêtre dans votre paroisse.
J'étais élève au lycée.
Ah oui.
Et encore un miracle, cet prêtre était, comme si ce n'est pas...
Cousin
de ma femme, d'autre femme. Et j'ai, dans ces temps, j'ai eu le courage d'écrire une carte, une lettre, dans laquelle je lui présentais ma situation. Mon prêtre, je suis un de votre élèves pendant les années 30 et quelques, et je suis condamné à mort, et si vous pouvez m'ajouter, aidez-moi. Et par cette simple, et quand j'ai pu d'après cette année, je fus arrêté par la sécurité. La question primordiale de la sécurité était comme moi, un condamné à mort, avait réussi d'être sur une liste de présidents
d'être connu de Nixon,
de Nixon. Le général Gheorghe, il n'était pas roumain, il était hongrois, m'avait interrogé. Le secrétaire Kissinger avait demandé de toi.
Ils ont demandé de vos nouvelles.
Les officiers de sécurité avons dit que vous, par les lois de Roumanie, vous êtes un homme libre. Mais vous voulez profiter de cette
liberté,
loi.
Oui.
Et si ce n'était
si ce n'était pas
cette situation, je n'étais pas.
Vous ne seriez pas là ce soir.
Ce soir.
Bah, écoutez, on va remercier à titre posthume le président Nixon de nous avoir permis de vous rencontrer. Alors je répète que si on veut vous voir ce soir, c'est 70 le boulevard Saint-Germain au centre Charlier. Vendredi, vous serez à Saint-Sulpice, dans la crypte de l'église Saint-Sulpice, à 19h30. Et samedi, vous serez à la Maison Roumaine, 38 rue Ribera, 75016 Paris. Alors, vous n'avez pas de livre à vendre, mais pour savoir un peu ce qu'a été la vie en Roumanie pendant cette période effroyable, on peut lire un livre qui est de Grégoire Dumitrescu. Qui s'appelle l'Holocauste des âmes. Et je signale d'autre part que la conférence de ce soir va être filmée probablement par mon excellent camarade Barsky, je pense, qui en fera une cassette vidéo ou un DVD, et vous pourrez comme ça découvrir qui est monsieur Gavrila, et puis vous verrez peut-être monsieur Adam aussi qui l'accompagne dans son périple parisien. et vous pourrez entendre son
parce que
ah, oui,
vu la différence d'âge, c'est extraordinaire.
Si vous me permettez un dernier mot, donc ce soir nous aurons quelques livres à vendre où il y a un extrait des mémoires de Monsieur Gavrila qui sont parus en roumain à 3 volumes que nous possédons, mais bien sûr le public français aura du mal à lire, mais notre projet est d'éditer au moins un abrégé de ses mémoires en français. Donc si parmi vos auditeurs il y a des gens qui peuvent contribuer à l'accomplissement de ce projet, ils peuvent nous
adresser.
Alors
ça c'est l'abord, hein. Donc vous avez besoin de 6000 euros.
Nous avons
c'est
besoin
à peu près
de 40
000 francs pour financer la traduction,
la traduction
l'impression des mémoires de Monsieur Gavrila. Je pense que ça vaudra la peine parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fait le millionième de ce
point.
Alors donc si ça vous intéresse, vous pouvez contacter l'AVOR, AVOR, Association d'aide aux victimes de l'oppression en Roumanie, boîte postale 185, 44 rue Monges, 75005, Paris. Merci encore, M. Gavrila. Merci, M. Adam.
Enfin. Je vous remercie.
Ça vaut le rap largement, hein, je crois. On peut...
Ah oui, hein attendez, moi je suis encore sous le coup là.
Ils sont beaux tous les deux.
Ah, exactement, cette espèce de continuité.
Il faut le voir parce qu'il a, il a tous ses cheveux qui sont blancs de neige. C'est un bloc de granit.
Ouais.
Il y a un autre bloc de granit qui vient rentrer dans le studio, c'est Monsieur Mia. Je ne vous voyais pas comme ça.
Ah bon?
Non.
Pas vous quoi? Vous pensiez que je faisais 2 mètres?
Non, c'est pas une question de taille.
Vous regardez jamais la télé le mercredi?
Jamais. Vous savez, moi je suis pas démocrate, alors je vois l'agitation parlementaire, ça me passionne moyennement.
Monsieur Mia n'est pas un des plus agités, c'est des plus sérieux.
J'ai lu les questions qu'il a posées parce que j'ai travaillé sérieusement pour une fois et j'ai lu et recensé les questions qu'il a posées au gouvernement. Alors, en fait, la première question que je vous posais, vous êtes sûr que vous êtes dans la majorité présidentielle?
Oui, parce que je vais vous dire une chose, je suis dans la majorité parce que je n'ai jamais été un député godillot, donc je suis capable de ruer dans les brancards. Et je pense, tout à l'heure d'ailleurs, il y a une télévision qui me posait la question, je crois que c'était LCI pour Politique Show, bref, qui me disait, mais qu'est-ce que vous pensez que est la meilleure mission de la majorité présidentielle, enfin de l'UMP, est-ce que c'est de cirer les pompes du gouvernement ou de ruer parfois, ou faire des propositions? J'ai dit, c'est évident que quand c'est nécessaire, il faut soutenir le gouvernement, mais quand nous estimons que nous devons faire des propositions qui peuvent un peu défriser le gouvernement, nous devons les faire. Et je n'hésite pas à le faire, tout simplement parce que je crois que le fait d'avoir une majorité qui est aux ordres, et bien, c'est complètement dépassé, et qu'il est dans l'intérêt même du gouvernement, je dirais même quel qu'il soit, qu'il y ait parfois un certain nombre de députés qui aient le courage de leur dire, attends, ça suffit, vous vous trompez, ou tu te trompes, ministre, et il faut changer de politique.
Alors,
donc c'est bien pour ça...
Que vous gênez beaucoup quand vous avez quelque chose à dire.
Non, il ne faut pas se gêner, mais il faut y mettre les formes, c'est-à-dire jamais d'attaque ad hominem. Il ne faut jamais en politique attaquer ad hominem parce que les idées sont portées par des hommes, ces hommes peuvent se tromper, donc et moi le premier, et en revanche il faut se battre sur le plan des idées. Il faut véritablement je dirais avoir des convictions d'une part, et il faut être cohérent. La première qualité du politique, c'est d'être cohérent, c'est une ligne politique. Je dirais que de ce côté-là, vous savez, les marxistes avaient ça, ils avaient une ligne. Bon, alors eux, ils avaient des méthodes expéditives pour toute personne qui sortait de la ligne. Mais je crois que la grande qualité d'un politique, c'est d'être cohérent, de poursuivre une politique à long terme. C'est ce que j'avais souvent dit d'ailleurs, y compris dans ce studio, c'est que le politique doit retrouver le temps long. Le politique doit penser un projet pour le long terme, pas courir après les médias à longueur de temps. Et c'est ça le drame. On n'est pas là pour faire des coups. Oh. Tout à fait entre nous, on peut en faire aussi, mais on doit en faire.
Ben si vous n'en faisiez pas, on s'ennuierait.
Oui, mais attendez, bien sûr, les journalistes s'ennuieraient, ou je dirais même les Français, mais il faut faire à ce moment des coups qui s'inscrivent dans une politique cohérente et à long terme. Il faut retrouver le sens, je dirais, de l'intérêt général dans la continuité et dans un projet. Ce qui manque le plus à la France aujourd'hui, c'est un projet. Et moi, c'est l'indépendance nationale qui me soucie.
Alors, je voudrais pas vous fâcher avec vos collègues, mais oui, je vais quand même essayer. À combien estimez-vous le nombre des parlementaires qui sont comme vous ? Sur, sur ce point précis.
Bon, écoutez, je vais pas. Il y a un certain nombre de fortes têtes. Il y en a qui ne sont pas tous de mes idées, mais peu importe. Le problème est que c'est vrai qu'il y a un certain nombre, sans donner de nom, il y en a partout dans tous les partis, qui se soucient d'abord de savoir comment ils vont être élus. Ça, c'est une très mauvaise approche de la politique, parce que ce que veulent les Français, c'est avoir quelqu'un qui est capable de défendre et quelqu'un avec lequel ils ne sont peut-être pas toujours d'accord, parce que être d'accord, premièrement, ce serait véritablement triste d'être toujours d'accord avec son voisin. Mais ce que, à mon avis, les électeurs attendent, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de monter au créneau, qu'ils sont capables d'approcher, qu'ils sont capables de saisir, qu'ils sont capables de défendre un certain nombre de convictions et qui est, comme je le disais, cohérent. Combien sont-ils ? Un certain nombre.
C'est bien. Bonne...
Voilà. Vous connaissez la formule.
Je suis content
un certain
de vous
nombre. Bon, cela étant, c'est comme toujours. Dans tout cercle, qu'il soit politique, qu'il soit celui de l'entreprise, il y a des gens qui se mouillent, il y a des gens qui s'engagent, puis il y a des gens effectivement qui sont spectateurs. On a connu ça dans toute l'histoire de France. Hein, je vais peut-être vous surprendre, mais les quelques preux chevaliers qui ont suivi Jeanne d'Arc, il n'y en avait pas beaucoup. Hein, il y
non,
avait le comte d'Uriel, etc. Ceux qui ont suivi même avant Vercingétorix, parce que moi la légitimité française, elle vient bien d'avant. Hein, eh bien, ils étaient peu également. Bon, ceux qui ont suivi De Gaulle en 40, il y en avait peu. Un jour, il avait dit à son aide de camp, De Gaulle, que lorsqu'il allait voir les officiers et les troupes qui venaient de Narvik, qui avaient été rapatriés en Grande-Bretagne, il lui avait dit, il n'y a que les fous et les juifs qui vont nous suivre. Bon, eh bien, voyez ce qu'il en était. Bon, donc, il y a un moment où il y a des gens, des hommes, des femmes, parce que Jeanne d'Arc, c'est une femme jusqu'à nouvel ordre, et donc, qui sont capables de s'engager et qui font l'histoire, parce que l'histoire elle est faite par les hommes. Elle est faite peut-être par des tendances fortes à un moment donné, mais elle est d'abord faite par les hommes.
Ah, pour revenir à quelque chose que vous disiez tout à l'heure, vous disiez il y a des députés, on sait bien, on les connaît, il y en a beaucoup, enfin chacun choisira son nombre, c'est pas tellement le problème, qui n'ont en tête quand ils sont élus que de préparer leur réélection. Mais est-ce que vous croyez pas aussi que ça dépend de sa circonscription ? Je veux dire, vous,
c'est
par exemple,
évident.
Vous avez été élu en 93, vous êtes maire de Maisons-Laffitte. Je dirais que j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'est moins difficile d'être réélu UMP à Maisons-Laffitte que...
Détrompez-vous. Un jour, j'étais en poste à Berlin.
Camon-sur-les-Mines, non ?
J'étais en poste... Attendez. Détrompez-vous. Parce que dans des circonscriptions qui sont dites sûres, tant à gauche qu'à droite, ça suscite beaucoup plus d'appétit dans votre propre camp.
Ah, ça, c'est sûr.
Bon. Et donc, je peux vous dire qu'en 93, 97, la fameuse dissolution 2002, j'ai eu en face de moi aux législatives la bagatelle de 14, 15 et 16 candidats contre moi à chaque fois. Et la dernière fois,
c'était pas des candidats à RPR quand même.
Il y en avait un. Il y en avait un la dernière fois. Qui a été battu. Bien. Mais ce qui est certain, c'est que ça suscite véritablement la division. Et dans toutes les villes qui sont sûres à droite, vous avez une multitude de, par exemple, de listes à droite. Au municipal, il y en a eu 4. Donc, il est clair que ça suscite en disant, il n'y a pas de danger, donc on peut y aller, etc. Et puis, le résultat est là. Bon. Mais il n'en demeure pas moins que je ne dis pas que ma circonscription, je dirais, est une mauvaise circonscription. Je pense d'ailleurs que le terme est impropre. Je pense simplement que lorsque l'on veut véritablement s'engager en politique, il faut y aller avec une cohérence, il faut y aller avec des convictions, il faut proposer quelque chose aux Français et s'y tenir. Vous connaissez par exemple mes positions sur l'Europe. J'ai une circonscription qui a voté plus pour le oui que pour le non, y compris ma propre ville, mais il n'en demeure pas moins moins. Certains m'ont dit, écoutez, monsieur le maire, sur ce coup, on ne vous suit pas parce qu'on n'est pas d'accord, etc. Ce que j'ai dit, vous vous trompez. Mais il n'en demeure pas moins, il m'accepte en tant que maire, il m'accepte en tant que député, compte tenu, je dirais, de l'allant, de la ligne que je leur donne et qui n'est pas celle, de la girouette. Donc, ils savent où je suis sur les affaires européennes. Ils me respectent. Certains disent, tiens, après tout, ils commencent peut-être à avoir raison, parce que quand je vois au sein de mon propre UMP le nombre de gens qui commencent à se dire, tiens, il y a dû avoir un problème quand même, si 55% des Français ont voté non, et que, y compris à droite, quand on regarde bien les choses, contrairement à ce qui avait été dit, vous avez une majorité de gens à droite qui ont voté non. Hein, il ne faut pas croire que ce n'est pas un vote de gauche. Bien sûr qu'il y a eu un vote de gauche, on le sait, pour les idées, mais il n'en demeure pas moins, c'est un vote de droite. Aussi à droite qui a voté non. Donc il est clair, net et précis que les circonscriptions, il peut y en avoir des plus difficiles que d'autres, mais il y a à chaque fois un certain nombre d'écueils, parce que c'est ainsi, la démocratie suscite pas mal de vocations, beaucoup d'appelés et peu d'élus.
Quand on lit votre biographie, on voit que vous êtes membre de la commission des affaires étrangères et que vous indiquez comme profession conseiller des affaires étrangères.
Ça, c'est ma profession dans le civil, si je peux m'exprimer ainsi.
Ça consiste en quoi?
Je n'ai aucune honte à le dire. J'ai commencé une carrière professionnelle dans la diplomatie, puisque je suis passé par le Quai d'Orsay. Donc je suis un conseiller des affaires étrangères dans le grade du corps diplomatique français. Mais alors, cela étant, ça, c'est mon grade qui m'est propre. Vous connaissez, hein, depuis Louis XIV, les officiers sont titulaires de grade. Mm-hmm. Bon, moi, je suis titulaire de ce grade dans la diplomatie, mais bien évidemment, je n'exerce pas, au nom de la séparation des pouvoirs, dans la diplomatie.
Alors, puisque vous êtes connu pour prendre des positions parfois, même souvent, inattendues, je vais vous poser une question.
Qu'est-ce que vous faites à l'UMP, non?
Non, déjà, je vous ai posé pour commencer. Est-ce que vous êtes sûr d'être dans la majorité présidentielle? Non. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a vraiment trop de fonctionnaires, hauts fonctionnaires, à l'Assemblée nationale aujourd'hui?
Alors, attendez. Paradoxalement, il y a effectivement un certain nombre de fonctionnaires, et j'en suis un d'origine, mais paradoxalement, c'est pas la catégorie socio-professionnelle la plus représentée à l'Assemblée. À une condition, c'est qu'on affine un peu, parce qu'il y a une multitude de variétés de fonctionnaires, bon, etc., mais sous le terme générique, ça doit encore rester vrai. La catégorie socio-professionnelle la plus nombreuse à l'Assemblée, vous savez laquelle c'est? Ce sont les avocats. 67. Il y en a 67, c'est-à-dire plus de 10%. Ensuite, ce sont les médecins. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il y a des profs, etc., mais beaucoup moins. Donc, on est sorti de ce qui avait été la vague rose des fonctionnaires de 81. Il y en a encore, j'en suis un. On est deux diplomates, Didier Quentin et moi-même, d'origine. Il y a aussi des profs, c'est évident. Mais autour de moi, quand j'y réfléchis bien, notamment à l'UMP, ils ne sont pas si nombreux que ça. En revanche, les avocats, oui. Et je les fustige à chaque fois, parce que les avocats, surtout quand ils sont à la commission des lois, ils pensent les lois comme des avocats. Mais je peux vous dire que dans les procédures pénales et civiles, ils nous ont fait des choses qui se sont retrouvées, qui ont paralysé la justice. Il faut le dire franchement. Hein. Bon, donc, on est revenu de ce côté-là un peu sous ce qu'était la troisième. Bien. Mais les fonctionnaires, alors en termes généraux, combien sont-ils au total? Oh, il y en a peut-être une centaine, ça je veux bien le croire. Peut-être un peu plus. Mais la catégorie, lorsqu'on affine un peu, parce que c'est très générique. Alors, le problème est de savoir, c'est le problème du statut de l'élu que vous posez à travers cette question.
Oui, il y a ça, et puis il y a un autre problème que
je vois très bien, c'est la pensée unique générée par la nécessité. Est-ce que ces fonctionnaires vont, faire la réforme de l'État? Car il est manifeste aujourd'hui dans ce pays qu'il y a des mines à trouver, et le gouvernement a commencé, mais il est évident qu'il faut profiter du vieillissement et du renouvellement des générations pour restreindre la voilure de l'État et la rendre plus performante. Et je suis de ceux qui pensent effectivement qu'il y a des mines à trouver. Vous allez peut-être étonner, c'était à l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, je suis intimement convaincu que tout en ayant le même service, d'éducation nationale, c'est-à-dire les mêmes prestations à nos enfants. Il y a énormément de postes que l'on peut supprimer, à une condition, c'est qu'on applique les textes, c'est-à-dire que les profs, qui profs des CGE, doivent aussi, parce que c'est prévu dans les textes, pouvoir enseigner à côté. On voit le tollé qu'on a actuellement lorsqu'on oblige, la loi Fillon veut obliger qu'il y ait immédiatement les remplaçants qui viennent d'à côté, etc., pour s'occuper des enfants. Quand on est prof d'histoire, on peut aussi quand même enseigner un texte de français. Quand on est prof de philo, on peut quand même aussi enseigner un texte de français.
Oui, c'est sûr. Bon, enfin, quand on est prof d'espagnol, on n'est pas forcément
en mathématiques. On est agrégé de lettres. Attendez, on est agrégé de lettres. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et on est censé maîtriser deux langues correctement.
Ah, ça,
bon,
oui.
Bon, bien. Donc, de ce côté-là, ça, savez-vous qu'il y a 1000 profs de philo, parce que malheureusement, on ne fait plus de philo en France, qui est une catastrophe, d'ailleurs. Hein? Savez-vous qu'il y a au moins 800 profs de russe, parce qu'on n'apprend plus le russe, qui est une erreur. Ce qui est une erreur. C'est une très grande langue.
Oui, bien sûr.
Et une belle civilisation. Et que ces gens-là sont pratiquement sous emploi, ce n'est pas acceptable. Donc il y a évidemment des mines de ce côté-là. Donc je suis de ceux qui pensent effectivement que le nombre des fonctionnaires doit être réduit de manière qu'ils soient optimisés dans leur fonction et sans doute peut-être mieux payés pour certains. Pour certains.
Alors la coupure de, traditionnelle de 19h30, on reprend cet entretien dans quelques minutes. Jacques Maire, vous êtes député UMP, vous êtes maire de Maisons-Laffitte et député de la 5e circonscription des Yvelines. Et je vous ai invité ce soir parce que je vous ai entendu dans une autre émission de Radio Courtoisie, j'avais trouvé que vous aviez un langage qui tranchait sur le langage habituel des parlementaires de la majorité qui étaient reçus à cette antenne, et que vous aviez un ton qui méritait qu'on lui permette de s'exprimer un peu plus souvent. Non pas que mon confrère directeur d'émission ait échoué dans cette tâche, mais je trouvais qu'il fallait peut-être un peu prolonger ça. Et puis quand j'ai consulté votre curriculum vitae ou votre biographie, j'ai constaté que vous étiez lyonnais de naissance. Et vous avez combien de générations de Gaunes derrière vous ?
Écoutez, ce sont des Lyonnais qui viennent à la fois de la Savoie et de l'Ain, c'est-à-dire du Bugey de l'Ain et du Bugey savoyard.
Donc c'est pas des mous en général.
Ce sont les travailleurs. Moi, je suis petit-fils de paysan et fier de l'être, et je peux vous dire effectivement, ma mère était une Bertrand. Du côté de Lémiard, viennent de Sertigne, à côté de Bourg-en-Bresse ou de Bourg-en-Bresse, dans la patrie d'Edgar Quinet. Alors c'est amusant parce que dans les deux branches de la famille, la grand-mère très catholique pratiquante et le grand-père libre penseur, et donc vous pouvez avoir l'ambiance que ce qu'il pouvait y avoir dans chacune des familles. Donc ça c'est très important. Donc moi je suis véritablement ancré dans le terroir français et j'ai passé, je passe toutes mes vacances et notamment toute ma jeunesse que j'ai passée, soit dans l'Ain du côté de Nantua, soit en Savoie à côté du lac d'Aiguebelette. Donc ça c'est mon oppidum, c'est là où je résiste, n'est-ce pas, résiste aux pensées de la mondialisation, aux âneries européennes, et j'estime qu'on a un pays qui est tellement beau qu'il nous faut continuer à en maîtriser le destin et ne pas laisser les autres nous gouverner.
Vous n'avez pas justement, si on a un pays tellement beau et tellement riche, surtout quand on est dans la région de Nantua, où quand même la cuisine n'est pas mauvaise, on n'a pas l'impression d'être dans un pays de pauvres.
Hein. Non.
Vous ne croyez pas qu'on pourrait assez facilement faire l'économie du système fédéraliste européen vers lequel on nous entraîne ?
Écoutez, moi je pense que les Français, là, lui ont donné quand même un sacré coup sur la tête.
Oui, alors justement, là je suis d'accord, mais
et je suis
franchement,
convaincu...
est-ce que vous n'avez pas l'impression que personne n'en tient compte ?
Attendez, c'est plus complexe que cela. Et je tiens à vous dire que, bon, hier nous avons eu une commission des affaires étrangères où Catherine Colonna est venue nous exposer un certain nombre de choses, et où j'ai tapé un peu du poing sur la table en disant, mais attendez, vous nous parlez d'un projet politique, d'intégration politique qui demeure, paraît-il, la tasse de thé du gouvernement. Comment pouvez-vous penser à cela dans une Europe à 30, je ne parle même pas de la Turquie, c'est une chimère totale. Donc, alors à un moment où on se voit très bien que si on a un certain nombre d'affinités pour faire un certain nombre de coopérations, nous avons des intérêts fondamentalement différents les uns des autres. Donc c'est passé. Mais c'est la même chose. Vous savez ce qu'avait dit De Gaulle un jour à Malraux ou plus exactement à Perfit, lorsqu'il va le voir à Colombey, et il lui dit, de toute façon, mon cher ami, la Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. Donc on est dans des temps longs. Or, aujourd'hui, ils ne se sont pas encore aperçus, certains du moins, ou ils commencent à le voir, que à l'évidence, tout ça s'est dépassé. En réalité, c'est un projet des années 55, ça je l'ai dit à la
fin.
C'est un projet au temps des blocs. Aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation. Or, la globalisation, elle a bouleversé la notion de géographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous constatons que nous sommes aussi proches, grâce à des petits appareils qui s'appellent le portable ou qui s'appellent la télévision, que nous le étions jadis des Belges, et qu'aujourd'hui nous pouvons appeler un Japonais en direct en l'espace de quelques secondes. Donc tout ça a complètement bouleversé les choses. À telle enseigne, et ça va très loin, parce que on en subit, le toute Europe qu'on nous a prôné depuis des années, on en subit les conséquences. C'est que je l'ai dit et je le répète, lorsque Monsieur Renault veut trouver une fiancée, il va chercher une geisha, il prend pas une italienne. Lorsque Monsieur Benz veut se marier, il va chercher Chrysler. Lorsque Snecma veut se marier, il va chercher General Electric. Et il est évident qu'on vit dans un monde globalisé. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer son voisin de palier, mais nos intérêts sont mondiaux à nous Français. Ils sont mondiaux à travers notre histoire, ils sont mondiaux à travers nos intérêts économiques, ils sont mondiaux à travers nos intérêts culturels, et ils sont mondiaux avec à nos intérêts politiques tout court, de notre position à l'ONU, etc. Donc c'est clair, ce projet fédéral, il est mort. L'Europe de papa est morte.
Alors acceptons le portrait plutôt sympathique de la fiancée globale que vous nous présentez. Il n'en reste pas moins que on est en face d'une situation qui existe en France depuis toujours. C'est-à-dire qu'en France, il y a toujours eu des gens qui pensaient qu'ils étaient mieux qualifiés que les Français pour penser à leur place. Les Français ont fait savoir qu'ils ne voulaient pas de ce système français. Ils veulent rester Français en France et qu'on leur foute la paix. Ils veulent pas qu'on vienne bouffer sur leur laine sur leur dos, et ils veulent pas qu'on prenne leur richesse nationale, leur patrimoine industriel et commercial et tout, pour aller le faire fabriquer à l'autre bout de la planète. Ils disent, nous, ce qu'on veut, c'est rester comme on est bon. Que ce soit intelligent, que ce soit stupide, c'est
aucune espèce d'importance.
Moi, j'en sais rien, je me prononce pas.
Moi, je pense que c'est très intelligent de vouloir y travailler chez soi.
Mais on leur dit, par exemple, sur l'Europe, vous avez dit ça, non ? D'accord. Eh ben, vous avez dit non. Eh ben, on va vous la coller quand même. Sur la Turquie, vous n'en voulez pas. Eh ben, on va vous la coller quand même. Pourquoi ? Mais parce que nous, on est plus intelligents que vous. Nous, vous rendez compte, on est les élus du peuple.
Alors, monsieur Bekele, sur ce point, un point d'information. À l'heure actuelle, je dis bien, à l'heure actuelle, et sans doute pour longtemps, même si certains ont voulu, y compris dans la majorité, ou à Bruxelles ou ailleurs, essayer de se dire, on va quand même faire passer la pilule en y allant par morceaux. Ça, personne ne le fera, parce que véritablement, ça, c'est la révolte. Et moi, ils me trouveront en face.
Alors, la révolte parlementaire aussi.
La révolte parlementaire aussi, parce qu'on a quand même des moyens, je dirais, de saisir le Conseil constitutionnel, si jamais il était. Et je peux vous dire que j'en connais un, qui s'appelle Pierre Mazeaud, qui ne le laissera pas faire. Bon, ça, c'est évident. Deuxièmement, il faut bien voir une chose. C'est que ce qui avait été ficelé par VGE, Valéry Giscard d'Estaing, c'est un tout. Et que si vous commencez, en réalité, vous savez, on a dit, il fallait mettre la première partie, pas la troisième partie, parce que elle est incompréhensible pour les Français, etc. En réalité, ça, je suis désolé, c'est totalement faux. La première partie n'allait pas sans la troisième et réciproquement. Donc, c'est un tout. Donc, ce sera absolument un échec. Mais, je vais vous dire une chose. Dans la majorité actuelle, certains sont venus me voir en disant, tu avais vu juste. Et je vais aller plus loin. L'autre jour, on m'a invité à une convention UMP organisée par le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, un certain nombre d'heures pour analyser ce qui s'était passé le 29. Alors figurez-vous que je suis intervenu dans la première table ronde qui s'appelait « Pourquoi l'échec du référendum ?» Et il y avait un certain nombre de gens, dont des fédéralistes patentés, Cohen, Tanuji, etc., peu importe. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris la parole en disant, mais je suis désolé, c'est pas un échec, c'est un succès. Car les Français ont rejeté un traité imbécile. Bien. Deuxièmement, j'ai démontré pourquoi ce traité était complètement décalé par rapport à la défense de nos intérêts, pourquoi les Français n'en voulaient pas, et parce qu'ils ne répondaient pas à ce que vous venez de dire, à la défense de nos intérêts économiques, commerciaux, et nous étions différents les uns des autres. Nos intérêts culturels, cela va de soi, la défense de la langue française, quand on voit le tout anglais qui nous est actuellement matraqué à Bruxelles, et sur lequel, hier, j'ai réagi extrêmement vivement auprès de la ministre Colonna. Donc, il est manifeste...
La francophonie, c'est une de vos préoccupations.
Bien évidemment, j'ai vu le nombre de questions. La langue, c'est notre patrie. Il faut quand même le savoir. S'engueuler en français, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Surtout que s'il fallait qu'on s'engueule en anglais, on manquerait de vocabulaire.
On manquerait de vocabulaire. Et il est bien manifeste que ça a créé la nation. D'ailleurs, quand on regarde ce qui s'est passé, quand vous regardez le môle dans lequel les Gaulois étaient il y a 20 siècles avec Jules César, et qu'on regarde aujourd'hui la carte linguistique, c'est la même. Si on parle français en Suisse, c'est qu'on a un peuplement celtique, et y compris dans l'Italie du Nord. C'est pas parce que le roi de France à un moment, ou plutôt Napoléon a annexé Genève, non, pas du tout. C'est qu'on a un môle culturel qui nous vient de 20 siècles. Bien. Deuxièmement, et j'en viens à cela, c'est que ça avait été préparé par un texte préparé par Nicolas Sarkozy. Et j'ai vu, mais alors stupéfaction, que dans ce texte qu'il a mis sur la table et qui a été discuté et qui a été ensuite adopté, eh bien, figurez-vous qu'il a... C'est une révolution, on regarde ce qui est aujourd'hui les traités. Il veut reprendre la compétence de négociation des accords internationaux qui appartient aujourd'hui à la Commission parce qu'ils sont communautarisés, ce fameux article 113 qui était devenu 130, c'est-à-dire la négociation des accords internationaux, il veut le reprendre à la Commission pour les faire négocier par le Conseil. C'est une révolution. Alors je peux vous dire que si Barroso voit ça, s'il le voit, il va avoir une crise cardiaque. C'est la fin de la Commission en tant que organe indépendant, technocratique, qui en fait qu'à sa tête. Et on l'a vu encore dernièrement avec Mandelson. Hein, où, et donc, on voit très bien que les choses bougent. Mais là encore, ça prendra 10 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des officines qui vivent que de ça. Il y a des gens dont c'est le fonds de commerce. Il y a des gens qui sont payés par Bruxelles. La Commission a de l'argent et elle distribue de l'argent. Et donc, elle dit il faut l'idée européenne, etc. Il faut réconcilier les Français avec l'Europe. Mais réconcilier les Français avec l'Europe, je suis désolé. C'est l'Europe qui doit se réconcilier avec la France parce qu'il y a eu un vote. Et c'est ça qui est important.
Oui, je suis assez d'accord avec vous sur ce point. Il en reste pas moins que la question qui est pendante, c'est celle de, je dirais, la hiérarchie des comportements démocratiques. Hein. Qu'est-ce qui est plus démocratique ? C'est d'insister pour faire ce qu'on considère être comme le bien à un peuple qui ne le comprend pas pour l'instant parce qu'il n'a pas tous les éléments de compréhension, mais un jour il comprendra. Ou est-ce que c'est de dire à ce peuple... Ben, tu veux pas, voilà.
Permettez-moi d'être d'accord sur la deuxième position, et je crois que c'est ça qui va se passer. On a besoin d'une certaine organisation de l'Europe, qui est simplement l'Europe des nations, mais qui n'a jamais à être ce que cette espèce de machin supranational hyper centralisé, qui va d'ailleurs imploser. Ça, c'est évident.
Quand vous parliez à l'instant de l'idée de Sarkozy de retirer à la Commission les compétences en matière de traité international.
Mais il en fait une matière intergouvernementale.
C'est ça, mais c'est la moindre des choses, d'abord, je trouve. Mais vous nous dites, ça prendra 10 ans. Autrement dit, on va mettre 10 ans à faire le chemin contraire qu'on a mis 20 ans à faire.
Non, attendez, vous savez, c'est très simple. Bon, il y a une lourdeur. Ça, je pense que de toute façon, la machine est en train véritablement de se gripper jour après jour. Donc, on est dans le temps lent et ça mettra un temps. Vous savez, si je prends des temps historiques, le communisme, on a mis un certain temps à s'en débarrasser. C'était
70
tragique.
Ans, 70 ans de vieillesse, nous disait tout à l'heure.
Oui. Deuxièmement, vous savez, c'est la même chose avec un esprit de système. Avec tous les esprits de système, il faut qu'il y ait une génération qui prenne conscience que c'est plus la réponse du monde. Donc, ça se fera et ça prendra du temps. Je suis désolé. Mais en revanche, on pourrait très bien concevoir, effectivement, que le prochain président de la République dit maintenant c'est comme ça et pas autrement, il casse la baraque. Moi, c'est ce que je serais parfois enclin à faire. Bon, il n'en demeure pas moins.
Vous n'êtes pas candidat.
Non, je vous rassure, je ne suis pas candidat. Je n'ajouterai pas à la pacaille ambulante. Mais ce qui est certain, c'est que pour casser la baraque, on peut le faire, mais il y a un problème d'opportunité. Vous savez, les grandes initiatives diplomatiques, il y a parfois des fenêtres de tir. C'est pas toujours évident. Donc, il faut effectivement aujourd'hui savoir que, un, à mon avis, le processus est arrêté. Deux, il est perverti totalement avec l'hyper-élargissement que l'on a connu, et surtout, alors, l'ouverture de l'Europe de papa, l'ouverture, pardon, avec la Turquie, c'est la fin de l'Europe de papa, parce qu'on sait très bien que jamais la Turquie ne rentrera dans le machin qu'ils ont essayé de nous concocter. Donc alors, c'est fini.
À ce propos, il y a eu récemment une pétition, ou je sais pas comment on appelle ça, une adresse des députés à Chirac, disant l'idée de l'entrée dans de la Turquie dans l'Europe, nous, alors je sais plus quel mot qui a été employé, nous soulève le cœur, nous écœure, nous révulse.
Je l'ai pas signé tout simplement parce qu'elle est partie plus vite qu'avant qu'on me la présente. Et deuxièmement, parce que moi j'ai moi-même fait un communiqué que vous avez sans doute vu en disant que de toute façon c'est la fin de l'Europe de papa, c'est terminé, on passe à autre chose. Parce qu'on a un problème qui est le problème de la géostratégie. Il est clair qu'on peut pas ignorer la Russie. Il est clair qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe au Maghreb où on a une bombe à hydrogène avec l'explosion démographique, et il est clair qu'on ne peut pas ignorer ce qui se passe, je dirais, au Moyen-Orient, au Proche et au Moyen-Orient. Donc il faut changer totalement la structure, la concertation. Je suis intimement convaincu qu'en Europe, on va aller vers ce que j'avais qualifié un peu d'une sorte de Conseil de sécurité à l'européenne pour régler nos problèmes, c'est-à-dire éviter de se taper dessus. On a des problèmes avec les frontières encore, c'est pas encore clair. Regardez ce qui se passe en Yougoslavie. Mais tout ça, c'est dépassé. Et c'est dépassé parce que les relations transnationales se font avec ou sans. Ça dépasse le cadre européen. Les entreprises, les individus voyagent, etc. Et puis, en dessus, on a besoin effectivement d'une organisation étatique qui, je dirais, facilite la coopération. Donc, on va avoir, à mon sens, quelque chose qui va se représenter à une sorte de conseil de l'Europe renforcé dans un certain nombre de domaines avec des lois uniformes, c'est-à-dire sur ce point précis, bon, on fait une loi sur l'arbitrage, on fait une loi sur l'échange, on fait une loi sur la responsabilité, etc., pour faciliter les échanges, c'est-à-dire, bon. Mais à mon avis, je vous le dis, c'est fini. C'est fini. Et c'est ce que je reproche, d'ailleurs, actuellement un peu au gouvernement, c'est ce que je dis, d'ailleurs, à plusieurs reprises, c'est qu'il faut penser autre chose. Le quantitatif d'une Europe à 30 et qui va s'élargir encore pose un problème qualitatif. Et il faut de la plus grande liberté. Le drame de tout le XXe siècle, ça a été, et je vous l'ai dit, vous m'avez peut-être déjà entendu, c'est l'esprit de système. L'esprit de système, on rêve un monde théorique et on colle la réalité là-dedans, et puis si t'es pas d'accord, on te coupe les oreilles.
Et alors, ça tombe bien que vous évoquiez l'esprit de système, parce que j'allais vous poser une question sur le cercle Nation et République, dont vous êtes le président. Et moi, je trouve que, alors, s'il y a quelque chose qui relève vraiment de l'esprit de système, c'est la forme républicaine des institutions, puisque il paraît qu'on n'a même plus le droit de la discuter. Tout le monde doit être républicain d'office, c'est obligatoire. On n'a pas le droit d'avoir une opinion différente.
Et vous êtes monarchiste?
Oui, bien sûr. Royaliste.
Oui, attendez.
Et monarchiste, à défaut.
Mais la République est la meilleure des monarchies, c'est clair.
La monarchie englobe les républiques.
Celle où on élit. J'entends un certain nombre de rires goguenards.
Non, mais attendez. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. J'espère que ça ne vous mettra pas mal à l'aise vis-à-vis de vos amis. Mais une des grandes questions qu'on pose aux royalistes, c'est la question bateau par excellence. On dit, mais si le roi devenait fou? Je dis, ça serait pas plus grave que quand on a élu
Chirac. Si le président de la République devient fou, alias Deschanel, bien connu.
Oui, encore que c'est même pas sûr qu'il soit devenu fou. Enfin, il y a eu d'autres exemples beaucoup plus redoutables et beaucoup plus proches de nous dans l'histoire. Mais je veux dire que ce qui me paraît intéressant dans l'appellation cercle Nation-République, c'est que c'est un oxymore. À mes yeux, c'est un oxymore.
Pas tout à fait. Et je vais vous dire pourquoi. République, qu'est-ce que c'est? C'est res publica.
Oui.
Quels ont été les meilleurs républicains? Là, je vais aller un peu dans votre sens.
Ah ben, c'est les rois, bien sûr.
Philippe Auguste, Philippe le Bel.
Non,
les grands légistes du royaume. On est d'accord?
Parce qu'ils s'occupaient de la chose publique.
Ils s'occupaient de la chose publique. Donc, la République, ça doit être un projet collectif. C'est ça. La nation, c'est ce que nous sommes. C'est l'essence.
Mais on ne va pas jouer sur les mots. On sait bien que c'est pas de ça qu'on parle. On parle de la forme des institutions.
Oui, vous, ce que vous trouvez, ce qui vous gêne à la limite, c'est sans doute peut-être la méthode démocratique d'élection, etc., où on n'est pas sûr de prendre le meilleur. Ça, je vous l'accorde. Mais il est clair.
Disons que j'attends une preuve du contraire pour l'instant.
Non, mais attendez. Où je vous suivrai pas, c'est que de toute façon, premièrement, c'est une donnée de l'histoire. Nous en sommes là. Et deuxièmement, je pense parce que c'est sans doute, bon, on peut se poser des questions, parce que en tant que histoire des idées politiques et, je dirais, meilleure méthode de gouvernement, il est clair que, vous savez ce que disait Bontemps sur la constitution de la 5e et de Gaulle, en disant que c'était, bon, un républicain monarchiste qu'il a, oui. Bon, mais que malheureusement, et c'est là où effectivement nous sommes déjà en 6e république, c'est qu'on a cassé le système en par le quinquennat, parce qu'il faut de la durée. Moi, je suis pour revenir à un septennat, pour avoir un projet national et avoir le temps de gouverner. Hein. Deuxièmement, on a démultiplié les élections qui paralysent. On a 7 élections en France, vous le savez. Hein. Bon, donc, qui paralysent totalement l'action du pouvoir, la noblesse de l'action politique. Je dis bien la noblesse de l'action politique, qui n'est pas le petit magouillage, etc., mais qui est de fédérer des énergies collectives. Bon, bon. Et donc, de ce côté-là, là, je suis effectivement assez enclin à dire que la 5e République, à ce qu'elle était, ce qu'elle avait été créée, était, et là je vais vous rejoindre, une république monarchique. On l'a d'ailleurs brocardée, hein, l'exercice solitaire du pouvoir, et j'en passe bien. Mais il n'en demeure pas moins que, avant, laissons la forme à la limite, ce qu'il faut réapprendre aux Français, c'est le sens national. Ce qu'il faut réapprendre aux Français, c'est effectivement la nécessité de l'engagement dans la durée, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, ça me paraît plus vital que de se quereller. Alors, à la limite sur monarchie ou république.
Dans l'appellation le cercle nation et république, quel contenu donnez-vous au mot nation, vous personnellement?
Oh, la nation, alors là, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement fort, d'une volonté de vouloir vivre ensemble. Ça, c'est clair. Mais animé par une dynamique d'un projet. Et ça, ça se refait tous les jours.
Ça, c'est complètement la révolution. Enfin, c'est la révolution, quoi.
C'est la révolution, mais elle était nationale.
La nation.
Mais elle a continué la monarchie, la révolution, de ce côté-là. Elle a défendu les intérêts. Ça peut, bien sûr, elle a coupé quelques têtes. C'est parce qu'elle a fait de mieux, d'ailleurs. Elle a détruit un certain patrimoine culturel. Parce que là, il y a eu quelques, je dirais, dégâts collatéraux. Mais il est magnifique. Je vais vous dire. Est-ce que vous êtes déjà allé à la salle des conférences à l'Assemblée nationale?
Non, je vais vous faire un aveu. J'ai jamais mis les pieds à l'Assemblée nationale.
Je vous inviterai. Et il y a une cheminée extraordinaire. Là où Briand ou Clémenceau, on a des photos, faisait un peu la sieste, parce qu'il fallait bien se reposer quand il fallait bretter. Bon. Eh bien, vous avez la couronne des Bourbons en haut, et au milieu, Marianne. Je ne vois pas mieux pour décrire la continuité de la France.
Est-ce que la couronne, en tombant, peut briser le buste de Marianne?
Je vous vois bien facétieux. Mais dans mon esprit, la lignée française, parce que j'ai sorti avec un ami ce que j'appelle l'idée française, elle est là. Pour moi, il y a rupture et continuité dans la Révolution. Bien sûr qu'il y a eu une rupture sur, je dirais, l'organisation interne de la société française. Mais il y a surtout une très grande continuité. Alors, je dois dire, et ça je vous l'accorde, que il y a effectivement des rois qui ont fait la France et qui ont notamment brisé les féodaux locaux qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Hein, là, avec la septimanie de l'oisillon fraîche, là. Bon, et moi, je suis de ce côté-là pour avoir un État fort qui prime et qui fasse passer l'intérêt général. Ça, c'est évident. Donc, de ce côté-là. Alors, ensuite, quelles sont les modalités d'organisation? On peut en discuter. Bon, je dis franchement que je crois qu'aujourd'hui, les monarchistes sont d'excellents républicains.
Ah ben, on s'intéresse à la chose publique. On voudrait qu'elle tourne tellement mieux, et elle tournerait tellement mieux si on avait un vrai roi. Mais
Que l'enseignement, hein, dans tous les écrits, vous vous souvenez de Maurras, etc.
Oui.
Bien. Bon, dans tous les écrits, ça tenait à l'éducation, mais aussi pour les citoyens français. C'est le même enjeu.
C'est évident. D'ailleurs, moi, je pense très franchement que l'éducation nationale ne s'est pas désorganisée, elle n'est pas tombée en nigdouille. Elle a été détruite à dessein, volontairement, par des saboteurs. C'est ce qui s'est passé en 68, c'est un sabotage conscient, organisé, d'inspiration marxiste, d'un système. Moi, j'étais à l'école communale avec des instituteurs qu'on appelait les hussards de la République. Ils savaient qui j'étais, on était une famille d'extrême droite toute ma vie. Mon père était mort au champ d'honneur, légionnaire, etc. Donc, j'appartenais à ce que tous ces gens pouvaient détester. Mais ils avaient un respect absolu de ce qu'on était.
Bien sûr, il y en a encore.
Et je me souviens d'un jour, une institutrice qui était très en colère m'avait dit, c'est pas parce que tu t'appelles deux que tu as le droit de faire n'importe quoi. Et le lendemain, elle a présenté des excuses devant toute la classe, ce qui est incroyable. Elle a dit, hier, j'ai dit une bêtise.
Et le matin, elle vous apprenait une phrase de morale.
Et ben voilà, absolument, tous les matins, elle écrivait.
Elle écrit au tableau. Bon,
ça.
Bon, merci Marquis, c'est très gentil de me le faire remarquer. Oui, je voulais, alors, je voulais quand même vous poser des questions sur des points précis. Et on a évoqué la francophonie. Bon, je ne veux pas y revenir, vous aviez posé une question qui me paraissait. Enfin, la moindre des choses, je dirais. Je suis étonné même que les députés ne soient pas insurgés quand France Télécom a présenté son rapport ou son projet.
J'ai pas encore la réponse à ce propos.
Non, alors ce qui est curieux, vous avez des réponses à vos questions, mais jamais quand il s'agit de la francophonie.
Ça va venir, ça. Non, parce que je vais
parce
relancer.
Que l'autre question non plus, vous avez posé une autre question sur la francophonie, sur le respect de la langue française, et visiblement ça les intéresse pas les ministres.
Vous savez où j'étais il y a 15 jours, j'étais à Villers-Cotterêts. Ah bah avec l'ambassadeur Salon.
Bel endroit pour parler francophonie.
Et je peux vous dire que pour moi c'est une symbolique extrêmement forte. Ce roi était pas mal, hein, je tiens à vous le dire. Je suis un républicain, je le répète pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Oui. Il était. Vous savez quel est mon préféré en matière de roi de France? Louis XI. Ah, je le trouve.
Ah, génial. Bah oui, bien sûr, monsieur.
Eh bien, je ne dirai pas son nom, mais j'ai un de mes amis députés socialistes qui est un type très bien. Il a la même admiration que vous pour Louis XI.
Voilà, un homme.
On reçoit un député MP, des auditeurs râlent. Vous dites que vous avez un ami député socialiste, on est mal barré, là. Heureusement qu'on a un ancien député du Front National. Pour nous dédouaner.
J'ai pas dit grand chose parce que j'écoute attentivement.
Tu vas avoir la parole, on a encore une heure.
Ce qui se dit
je pourrais peut-être pas rester encore une heure, je suis désolé, parce qu'il y a le débat qui va commencer qui va se poursuivre sur le budget et je veux intervenir avec force.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser les questions aux auditeurs.
Allez-y.
Alors, qu'est-ce que vous préférez? Vous répondez point
par point. Allez poser les questions.
Non, une à une.
Voilà, une à une.
Pensez-vous que l'union souverainiste à l'UMP peut être fédérative?
Alors, je pense qu'il faut qu'elle continue à ensemencer, à labourer nos idées, qui sont d'ailleurs les mêmes autour de cette table en matière de souveraineté de la France, commencent à véritablement être extrêmement bien perçues dans le peuple. Et on voit très bien qu'il n'y a pas d'autre solution que de retrouver la maîtrise de notre destin, à la fois économique et politique.
Est-il vrai que M. Dupont-Aignan a le projet d'être candidat à l'élection présidentielle?
La réponse est oui. Moi, je lui en ai découragé parce que je crois que, vous savez, pour se présenter au présidentiel, il faut avoir une masse critique. Et on ne peut pas se lancer dans cette affaire-là. Les Français se déterminent, à mon avis, en disant, bon, celui-là, il a mes idées, certes, mais aussi, il a une crédibilité suffisante. Et donc, je crois que c'est une erreur. Je lui ai dit, je lui souhaite, après tout, qu'il fasse une bonne campagne s'il y arrive. Et je crois que c'est une erreur que de se lancer comme ça dans la bataille. Je ne suis pas certain, d'ailleurs, qu'il obtienne les signatures. Et deuxièmement, je ne suis pas certain qu'il fasse un score, si jamais il les avait, époustouflant, ce qui mettrait en péril la crédibilité propre de nos idées.
Attendez, si vous permettez, Victor, je voudrais intervenir là, parce que ça fait plusieurs questions qui arrivent ou plusieurs remarques. Je suis scandalisé d'entendre Monsieur Mira dans l'émission de Serge Becquet. Qu'est-ce qu'il y a après Serge Becquet d'inviter un UMP que... Alors je vais vous répondre moi.
Attention.
Non, mais calmement. Mais il faudrait quand même s'entendre. On passe notre temps dans nos milieux et Pierre en est témoin, Pierre Descaves en est témoin, à dire. On peut pas débattre avec eux, ils veulent pas nous parler, ils nous considèrent comme des vats de la gueule, des pestiférés. La presse ne parle jamais de nous, les journalistes nous méprisent, nous détestent. Alors, et les hommes politiques ou les élus de la majorité ou de l'opposition socialiste ne veulent pas nous parler, etc. Bon, alors il faudrait s'entendre où ils veulent. Et alors à ce moment-là, on leur dit, comment vous voulez nous parler? Mais nous, on veut pas vous parler. Ou alors, ils veulent pas, et on leur dit, mais de quel droit nous écartez-vous du débat? Enfin, mes enfants, faut quand même essayer d'être un peu raisonnable. Je fais venir M. Mire parce que contrairement à ce que dit un imbécile, là, passez-moi l'expression, je ne suis pas un vendu, parce que je fais dire monsieur Miard. C'est la première fois qu'on se rend compte.
Je ne pense pas arriver à convaincre monsieur Debekech à rallier ce que je représente, et réciproquement, voilà, mais... cela étant,
on peut parler.
Nous avons en commun l'amour de la patrie, voilà. Et cet amour de la patrie doit nous faire prendre conscience que, effectivement, ici, il y a des gens qui ont voté, alors qu'on n'aurait pas souhaité qu'ils votent de cette manière, on devra quand même s'interroger pourquoi.
Voilà.
Bon, et si 55% des Français, effectivement, ont voté et ont rejeté ce traité scélérat, c'est bien aussi parce qu'ils se font une certaine conception de la France.
Et où est l'union des droites si on nous pose ce genre de questions dans une pipe?
Oui, non, mais c'est, alors justement, j'allais y venir parce que, et puis après je me tais parce que je sais que M. Miard va partir, et je donne un mot à Pierre. L'union des droites, on a l'impression, à entendre les auditeurs, que au fond, elle se fait de façon territoriale à Radio Courtoisie. C'est-à-dire, Yannick Urien a le droit de recevoir un député UMP, personne ne lui reproche, et il peut recevoir Jean-Marie Le Pen, et personne ne lui en veut. Mais moi, j'ai une espèce de fonction sacerdotale qui est...
Vous êtes le commandeur.
Non, moi j'ai le droit de recevoir Le Pen, Gollnisch, Karl Lang, mais un député UMP... Alors attendez, je veux dire, un jour on va recevoir un député socialiste à ce micro.
Qu'est-ce que vous allez faire?
Il y en a qui sont des nationalistes.
Des admirateurs de Louis XI.
Des socialistes, c'est un peu gênant, mais enfin...
Bon, et alors qu'est-ce que ça va nous faire une
salade? Bon, alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir devant la radio pour m'attendre à la sortie pour me casser la gueule? Enfin, il faut être sérieux, quoi. Bon, voilà. J'ai dit...
Oui, un mot. Je ne crois pas que quelqu'un puisse, connaissant mon passé, m'accuser de complaisance quelconque. Je ne suis pas de ceux qui trahissent. Mais je dois dire honnêtement que d'entendre M. Miard nous dire tout ce qu'il nous a dit, ça me rassure, parce que dans ce milieu que je considère comme... je vais dire un mot qui va déplaire à vos amis comme pourri. D'avoir des gens qui pensent juste, ça ne peut être que valorisant. Et je ne vois pas pourquoi nos auditeurs pourraient s'offusquer d'écouter des paroles sensées dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas dans leur parti.
Nous buvons du petit lait.
Allez, voilà. La suite des questions d'auditeurs.
Alors,
justement.
Un auditeur, dites-nous s'il vous plaît s'il vous semble que le nom du 29 mai a réellement changé la donne politique européenne au jour d'aujourd'hui.
Oui, mais ça prendra du temps. Le problème, vous savez, c'est l'onde de choc va durer longtemps. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que le nom français. Moi, ce qui est encore plus déstabilisateur, c'est le nom des Néerlandais. Pourquoi? Parce que les Néerlandais passaient pour être des Eurobéens convaincus, alors même qu'ils ont dit non à tout ce qui était la perte de leur identité, de leur maîtrise. Donc les Hollandais ont aussi le droit. Je leur conteste le fait de manger la drogue. Mais il n'en demeure, parce qu'ils empoisonnent un peu la jeunesse française également. Mais il n'en demeure pas moins que voilà un peuple vaillant, qui l'a montré dans l'histoire, parfois même à nos dépens. Demandez à Louis XIV, mon cher ami. Et donc c'est un peuple qui souhaite s'organiser comme il l'entend, et ne pas avoir des oukas qui tombent de Bruxelles ou d'ailleurs.
Et ils ont une reine.
Et ils ont une reine. Ça, c'est pour Serge Beckett.
Monsieur Miard.
Lui aussi, vous savez, alors là, ici.
Monsieur Miard et la plupart des députés UMP se disent opposés à l'entrée de la Turquie en Europe. Que vont-ils faire pour s'y opposer vraiment?
Ben, c'est très simple. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'Europe est morte, donc elle n'entrera pas. Donc, c'est ça, en réalité, qui est en train de se passer. Ah non, mais ça, je peux vous le dire. Ça, je peux vous dire, c'est terminé. On nous proposait une Europe kolkhoz, où tout le monde devait coucher dans la même chambre à coucher, hein, et aujourd'hui, bon, c'est terminé. On va trouver autre chose. Il faut inventer autre chose. Et c'est ça qui est intéressant, parce que, mais ça prendra du temps. Et puis, il y aura des échecs à nouveau. Le Blair est pas mal de ce côté-là.
Oui, il nous aide bien, là.
Il manque pas de flair.
Il manque pas de flair, le Blaireau, oui.
Dans l'UMP, on a bien du mal à trouver des souverainistes. C'est un mini-groupuscule. Et d'une façon générale, il faut remarquer que les femmes sont plus courageuses que les hommes. C'est un message d'une féminine.
Eh bien, écoutez, elle a parfois raison. Et dans l'histoire de France, il y a des femmes, effectivement, qui avaient plus d'allant qu'il y en avait. Oui, vous l'avez dit. Il y en a quelques-unes hein, aussi chez nous. Hein,
Un auditeur. Les convictions. Il n'y a pas pire ennemi de la vérité que les convictions. Avoir des convictions, c'est la gauche.
Attendez, vous avez, alors là, je crois que c'est une vision...
par-dessus la jambe ce que dit cet auditeur, parce que les convictions, c'est contraire, il n'y a pas de pire ennemi de la vérité avec les convictions, c'est pas entièrement faux, parce que c'est bien placé pour le dire.
Oui, alors, où cet auditeur peut avoir raison, c'est que si on a des convictions et qu'on s'enferme, je dirais, dans un esprit de système, alors là, c'est mort. Jusqu'à nouvel ordre, il faut aussi pouvoir douter. Et c'est par le doute que l'on avance. Et le drame des islamistes intégristes, c'est pas venu sur la table, je m'en étonne, mais je le mets, c'est qu'effectivement, en règle générale, ce sont des gens qui ne doutent pas parce que c'est le tout par cœur et c'est la vérité et pas autre chose, parce que là, la vérité, elle devient conviction, mais elle part d'un livre qui, soi-disant, est la révélation divine. Mais il n'en demeure pas moins que ça aboutit à des catastrophes.
Pourriez-vous poser la question à l'Assemblée nationale sur le plan des idées ? Trouvez-vous normal que plus de 15% des électeurs ne soient pas représentés, alors que d'autres ne représentent qu'à peine 5% et forment un groupe à l'Assemblée ? Ce serait bien intéressant.
Alors, le problème est posé, il en restera posé encore un certain temps, mais il mérite d'être posé.
Bravo, monsieur de Beckedge, d'avoir invité monsieur Miard. Mes idées sont plus proches des vôtres que les siennes. Mais seules. Mais ça nous change un peu de l'admirable docteur Dor et de l'inestimable père Argouache.
Ah, il nous fait une petite flèche rigolo au passage.
C'est un ami, c'est une gentille, parce que c'est signé. C'est un ami, comme on dit dans cette pièce formidable, le Père Noël est une ordure. C'est un ami.
Entendre monsieur Miard chez monsieur de Beckedge, c'est nous faire le coup de l'engager gamelle.
Qu'est-ce que ça veut dire l'engager gamelle?
Je saisis pas trop. Non,
parce que l'engager gamelle, c'est. Vous savez, un bidas qui s'engage pour aller à la gamelle.
Oui, c'est ça, vous allez à la gamelle.
Il faudrait que je me dépêche.
J'ai des doutes, parce qu'à mon avis, il n'a pas le profil pour ça.
Bravo.
Je vous vois mal enrichi.
Ouais, ça ne durera pas, de toute façon.
Oui, en plus.
À propos de libres penseurs, s'il y en avait beaucoup aujourd'hui, nous ne serions pas dans la mauvaise situation que nous vivons. Cette expression, finalement, n'est pas tellement désuète. Il faut la remettre à la mode.
Il est exact que ce que j'aime, justement, dans le débat politique, et je m'adresse à vous droit dans les yeux, monsieur Beckedge, j'aime les hommes libres. Les gens qui sont capables de penser par eux-mêmes sans aller chercher à longueur de temps des référents idéologiques dans lesquels ils vont répéter. Et c'est ça qui est intéressant. Il y en a à gauche comme à droite, il faut le savoir.
Oui,
bon, il y en a à gauche et à droite. Donc c'est ça. Et effectivement, libre penseur, à l'époque, ça a eu une connotation diverse plus tard. C'est des hommes libres et qui essayent de réfléchir.
Penser par eux-mêmes.
Mais à propos de libre penseur, vous êtes considéré, ou on vous considère volontiers comme un laïciste déterminé et dur.
Pourquoi ? Non, moi je. Alors, premièrement, c'est très simple. Pour moi, la laïcité, c'est les règles du jeu dans la diversité religieuse. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut savoir s'arrêter, parce que, vous savez, je le disais l'autre jour au Père Lelong, d'ailleurs, que vous devez connaître, qui essaye d'instituer un dialogue avec l'islam, j'ai quelques interrogations.
Oui, mais enfin, sans naïveté, hein.
Oui, attendez, non seulement ça, oui, bien sûr. Et je lui disais, le drame, c'est que les religions se mêlent de faire de la politique, ça aboutit à des catastrophes. Et le drame, c'est qu'il y a des religions qui sont plus politiques que d'autres.
Oui, mais je vous dirais que quand les politiques se mêlent de faire de la religion, c'est encore
pire. Et c'est bien pour ça qu'il faut ne pas le faire. C'est que dans l'équilibre de la loi, qui a montré qu'elle était bonne, puisqu'elle a permis d'ailleurs à un certain nombre de religions de s'épanouir et de vivre, c'est que justement le politique ne doit pas se mêler de religion, mais l'inverse également. Et c'est ça, donc c'est une règle du jeu. Et alors, je suis effectivement très attaché à ça, parce que je suis voltairien, au fond. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire...
J'espère que vous n'aurez pas sa fin.
Ah, bon, ça, vous savez, oui, comme vous dites, oui, ça c'est encore autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que je ne conçois pas qu'un homme, dans sa dimension personnelle, puisse vivre sans spiritualité, sans recherche, sans réflexion sur ce que nous sommes, sur ce qu'est la civilisation et ce qu'est justement le débat d'idées et le débat religieux. Je vais peut-être en choquer quelques-uns, comme un mécréant, mais il n'en demeure pas moins, l'histoire des religions me passionne.
Un mécréant ou un incroyant ?
Je suis agnostique, c'est-à-dire je doute en permanence et je n'ai pas la foi, mais j'admire les gens qui ont la foi.
Ça, il suffit de la demander.
Vous avez aussi... Oui, il suffit de demander la foi.
Ah oui, oui, absolument. Alors, c'est une grâce.
C'est plus complexe.
Il faut se mettre à genoux et puis ça vient tout seul.
Ah. Ah, écoutez,
c'est pas moi qui le dis.
Après tout, il faut peut-être essayer.
Voilà.
Mais il n'en demeure pas moins que j'ai quand même quelques doutes de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous savez,
la même manière que je n'appelle pas Dieu tous les jours,
même
comme certains baptistes me le disent.
Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait ses périodes de... De nuit de l'esprit.
De nuit de l'esprit, oui.
Mais moi, ça dure.
Il y a des moments où on a la foi et par moments, on a parfois les foies.
Oui, ça c'est vrai.
La foi revient.
J'ai pas toujours les foies parce que je suis un Gaulois qui a pas peur que le ciel lui tombe sur la tête, mais en revanche, je crois qu'on ne peut pas, donc je reviens à mon propos, avoir une laïcité sans qu'il y ait derrière une très forte spiritualité. C'est-à-dire que c'est une règle du jeu des rapports sociaux, la laïcité.
Pourquoi avoir participé à soutenu cette loi sur le voile?
Parce qu'il était urgent de mettre un terme à des dérives prosélytes totalitaires.
Oui, mais c'est l'extérieur là que vous avez attaqué.
À travers ça, on a mis un arrêt net. Et le dernier rapport d'Annie Chavet le montre, au prosélytisme et à la revendication, je dirais, de l'imposition de l'islam dans un certain nombre de choses. Et c'est là où les évêques, moi j'ai eu des relations notamment avec les évêques à travers Monseigneur Lalanne, qui me connaît bien et que je connais bien, qui est un homme admirable, je lui ai dit, vous êtes des naïfs. Car en réalité, vous êtes des naïfs parce que le voile, je l'ai dit et je le répète, s'il n'y avait eu qu'une question du voile, moi-même j'aurais organisé des concours de beauté. C'est pas ça qui est en cause. Ce qui était en cause, c'est toutes les revendications derrière, c'était d'imposer la loi religieuse de l'islam à la société, et d'abord en commençant par ces gens-là. Donc c'est ça, c'est faire la prière où on veut, quand on veut, etc. Refuser d'aller à la piscine parce qu'on va montrer son nombril, refuser d'avoir l'enseignement de la biologie parce qu'on va expliquer que effectivement il y a l'évolution de l'espèce humaine alors que soi-disant c'est décrit d'une manière différente dans le Coran. Donc attention,
d'accord,
ne jouez pas avec ça.
Parallèlement à ça, vous acceptez, semble-t-il, enfin peut-être pas vous, mais en tout cas la loi tolère et le législateur tolère que on ne trouve pas du tout de porc dans les prisons par exemple.
Il y a une diversité.
On ne sert pas de porc dans les transports.
Attendez. Je vais vous dire une chose. Vous savez ce que disait le petit père Combes, je crois qu'il disait les principes s'appuient dessus jusqu'à ce qu'ils cassent. N'allons pas. Les interdits alimentaires. Moi, j'aime pas. Je dirais la ratatouille. M'en ferais pas manger. Hein, bon, etc. Bon. Donc, je crois qu'il faut être très simple là-dessus. Il faut avoir la diversité. Mais il est clair que si effectivement, parce que moi, j'ai vu un jour à Paris où je demandais dans un petit shish kebab, parce qu'il m'arrive d'y manger, parce que c'est bon, c'est tout, hein. Moi, je trouve que c'est bon, mais je demandais un verre de vin, et le gars n'a pas touché la bouteille de vin,
Amran.
Ça, je n'admets pas ça. Bon, je crois que ça fait partie, alors là, d'un archaïsme, ça c'est évident, mais qu'on n'aime pas le porc, ou qu'on préfère autre chose, je dirais, y compris dans les classes françaises avec les bons petits gaulois que nous sommes, il peut y avoir des diversités très fortes, hein. Bon, il peut y avoir même des allergies. Maintenant, dans nos classes, dans nos écoles, on prend même les enfants avec l'allergie, ils amènent leur casse-croûte eux-mêmes. Donc, sur l'interdit alimentaire, je crois qu'il faut relativiser un certain nombre de choses. Ce que je ne peux pas admettre, c'est que, effectivement, si j'ai un musulman en face de moi, il va m'imposer sa religion, et comme dit Jean-Claude Barrault, je ne veux pas être emmerdé par la religion des autres, et je dois vivre la mienne correctement. C'est ça, le problème de la laïcité. Il y a un règlement, et vous le respectez. C'est les hommes qui font la loi et le Parlement ou le référendum. C'est pas un livre. Vous en faites ce que vous voulez, mais vous faites la séparation entre ce qui est la sphère privée et la sphère publique.
Voyez, nous, quand on sera au pouvoir, qu'on aura un roi très catholique, on fera exactement la même chose. On dira, il y a un règlement, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit d'être républicain.
Vous êtes plutôt...
Oh, monsieur Becquet, vous savez très bien que vous ne le serez pas.
Monsieur le député, vous êtes plutôt libre penseur que libre penseur. Hein, je pense à...
Oui, non, mais...
J'en ai encore quelques-unes.
Allez-y.
Merci beaucoup à Serge de Becquet et à monsieur Miard. C'est une émission merveilleuse. Toute la vraie droite doit s'unir. Merci, monsieur de Becquet.
Je suis intimement convaincu que ça bougera dans l'avenir, et peut-être plus rapidement qu'on ne pense.
Tous les patrons d'émissions sont libres d'inviter les gens qu'ils veulent.
Devinette,
quel ancien journaliste de Minute, directeur d'émission sur Radio Courtoisie, sert la soupe à un bonimenteur de l'UMP?
Alors, tout à l'heure, j'étais comme il disait, engagé gamelle, et maintenant je sers la soupe. Voilà, au moins la gamelle va me servir.
Je tiens à dire, et cet auditeur l'a entendu, que M. Mekesh ne mâche pas ses mots non plus. Bon. Et moi non plus, d'ailleurs.
Considérez-vous que la Yougoslavie fait partie de l'Europe? Et selon vous, l'Europe a-t-elle eu raison de bombarder les Serbes?
Oh,
et
alors
pourquoi?
Là, je vais vous dire, ça a été une faute tragique. Moi, je suis désolé, mais il faut bien comprendre ce qui s'est passé sur l'affaire serbe. Alors, il faut dire aussi que les Serbes ont poussé un peu fort, parfois. Mais l'affaire serbe a été une erreur stratégique. L'Allemagne a réveillé la Croatie. Hein, et on a fait une politique qui était, à un moment, parfaitement contraire à nos intérêts.
En tant que conseiller aux affaires étrangères, vous êtes plus spécialisé dans l'Allemagne, non?
Non, parce alors moi j'étais en poste à Berlin, où j'étais officier de liaison, c'est-à-dire diplomate, au gouvernement militaire français de Berlin. J'ai occupé Berlin, moi, monsieur.
Hein, voyez, à peu près. Juste au retour des choses.
Juste au retour, vous aussi. Et donc, de ce côté-là, j'ai vécu des choses très intéressantes à Berlin et passionnantes, à un moment où il y avait encore le mur. Bien. Donc les affaires allemandes, je connais un peu, mais j'ai perdu un peu le contact avec l'Allemagne. Ce qui est certain, c'est que l'affaire des Balkans a été, je dirais, une série et une suite de mauvaises interprétations et de méconnaissances, etc. Ce qui est vrai, c'est que certains de nos partenaires européens, je l'ai dit, l'Allemagne, a joué un jeu dangereux avec l'affaire de la Croatie et qu'on a démantelé, parce que c'est vrai que c'était très... Ce qui prouve bien d'ailleurs, l'affaire yougoslave, c'est un peu, aussi à l'image de ce que voulait être le traité constitutionnel. C'est-à-dire qu'on est différents, mais on vous met tous ensemble pour vivre. Donc il est clair que ça pouvait durer qu'un temps et que c'était une construction artificielle. Mais il n'en demeure pas moins que, par exemple, sur l'affaire du Kosovo, parce qu'elle va venir. Moi, j'attends, et les Américains veulent pousser à l'indépendance du Kosovo, ce qui est une faute historique dramatique, et que personnellement, je sais que le gouvernement français, heureusement, ne veut pas l'admettre, mais on est isolé en Europe sur ce point précis. Il faut savoir que si le Kosovo a l'indépendance, vous avez là une partition d'un État-nation pour la première fois en Europe, qui peut avoir des conséquences redoutables sur la suite. C'est un précédent historique incommensurable. Et deuxièmement, avec des gens, je le dis comme je pense, qu'ils sont des bandits de grand chemin. Hein? Qui sont des bandits de grand chemin. Donc, le drame, c'est que les Serbes, s'ils sont comme des
pieds... C'est un diplomate qui parle.
Oui, non, attendez. Vous savez, un de mes anciens ministres m'avait dit, Mihar, vous êtes un diplomate inquiétant. Mais j'assume. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra regarder ça, etc. Le problème, c'est que les Serbes ont été d'une très grande maladresse. Ça, c'est évident. Et que ils n'ont pas su relâcher à temps l'étreinte qu'ils avaient, etc. Et bon,
amitié qu'on ait pour eux, il faut reconnaître qu'ils sont pas, c'est pas des dentelières.
Non, c'est pas des dentelières. Il fallait faire un peu de dentelière, il fallait avoir à la tête, ne peut-être pas des gens un peu bruts de coffrage, mais des gens qui comprennent. Hein, c'est tout. On a revu à travers ça tout ce qui s'était passé avec l'Autriche-Hongrie. Il y en avait eu des intelligences. S'il n'y avait pas eu la catastrophe de 14-18, l'Autriche-Hongrie pouvait perdurer parce qu'un type comme Bernstein avait compris, selon la vieille formule, gardez vos ordres, on gardera les nôtres. Et on était capable d'organiser toutes ces minorités. Mais l'affaire serbe, c'est une page noire de l'histoire européenne récente.
Ça, c'est pas de la langue de bois, là, il me semble, non?
Non. J'étais en train de dire qu'on a beaucoup de chance de partager le député avec notre ami Uriel.
Et pourtant, votre invité fait partie des gens de l'UMP qui tiennent le langage du Front National pour récupérer ses voix.
Oh.
S'il pense vraiment ce qu'il dit, pourquoi reste-t-il dans un parti
qui ne l'aimait pas en partie, alors
qu'il est au pouvoir?
Non, attendez, je ne suis pas tout à fait. On est dans deux traditions différentes, mais ça, c'est le genre de propos qui est sans lendemain. Ce qui est certain, c'est que je sais que dans un certain nombre de moments, on ne regarde pas d'où l'on vient. On regarde quel est l'intérêt national.
D'ailleurs, je crois que vous pourriez regarder ce qui s'est passé de 86 à 88, où je suis intervenu 453 fois en deux ans à la tribune de l'Assemblée, et vous verriez qu'on n'a pas dit que des bêtises, au contraire.
Monsieur Jacques Miard, merci d'être venu ce soir. Je suppose que on aura l'occasion de se revoir.
Aucun problème.
Je voudrais pas vous laisser partir sans vous poser la dernière question ultime, la question obligatoire pour faire comme à Europe 1 ou Luxembourg. Sarkozy ou Villepin?
Alors écoutez, c'est très simple. Moi je dis tout net, toute maison divisée contre elle-même périt. Donc il est manifeste aujourd'hui c'est ni l'un ni l'autre. Ce qui est certain, c'est que la famille politique à laquelle, bon, moi je suis issu du RPR, hein, mais RPR, je dirais qui reste gaulliste, excusez-moi du peu. Donc si, j'ai travaillé avec Charles est effectivement l'un de mes amis, mais il n'en demeure pas moins que si on continue comme ça, ça se terminera entre vous et l'extrême gauche, quoi. C'est ça.
Merci, je suis très content.
Parce que peut-être on aurait vos voix.
Je suis très content d'avoir nous avoir permis de conclure sur une citation de l'Évangile, quand même. Toute maison divisée contre elle-même périra.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Le laïcard que je suis lit aussi parfois l'Évangile. Et je vais vous dire une chose. Celui qui nous avait dit et qui citait toujours l'Évangile, c'était Hage, qui est député communiste.
Ah oui.
Et qui connaît très bien l'Évangile. Alors ne croyez pas que même à droite ou à gauche, et même là où je suis, on soit obtus. Pas du tout. On est capable de lire pas mal de livres.
Merci en tout cas d'être venu nous voir. Alors mon cher Pierre, on va rester sur le thème de la défense de la France, de la nation française. Alors je rappelle que tu as créé, non, Pierre Descaves, la plupart des auditeurs le connaissent, j'imagine, vieux militant nationaliste, vieux au sens de l'ancienneté du militantisme.
Oh, les deux, colonel.
Tu as été résistant, alors, au moment où ça avait un sens vrai. Tu as été résistant une deuxième fois au moment de l'abandon de l'Algérie.
C'était plus difficile la deuxième fois que la première.
Ben oui, parce que
on avait beaucoup plus de difficultés à vivre à ce moment-là.
Et aujourd'hui, tu as créé un mouvement, tu as inspiré un mouvement que tu as appelé France Résistance.
Oui.
Qui appartient à ta tradition de la résistance, résistance au pouvoir en place, aux corruptions, aux mafias et aux dérives globalistes, planétariennes, européistes.
Oui, cette
idée. Ou eurobéates, comme dit très joliment. Oui. Le mot magnifique, eurobéat, il faudra l'utiliser plus souvent.
Eurobéat, oui. Oui, vas-y.
Est-ce que tu peux résumer d'abord le sens de France Résistance? À quoi ça correspond? Quel est ton projet?
Alors, cette idée est partie du fait que dans ce pays qui a été le pays de la liberté, on s'est aperçu que de plus en plus le citoyen de base n'avait plus le droit de penser, de s'exprimer, d'avoir des opinions. Les autorités morales autoproclamées nous empêchent pratiquement d'avoir des opinions. Et il s'est trouvé que, en lisant la Constitution, car je suis quand même un docteur en droit et qu'il m'arrive aussi de faire du droit de temps en temps, j'ai vu qu'il y avait des droits fondamentaux qui résultaient, et là je n'y suis pour rien, hélas, 1789, ça a été la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et pas seulement de l'homme, mais du citoyen, et ça on l'oublie tout le temps, on parle plus que de l'homme maintenant, mais le citoyen a disparu, et qu'il y avait parmi les droits fondamentaux le droit de résister à l'oppression. J'ai estimé, avec quelques amis, que nous étions actuellement tellement encerclés par ce prêt-à-penser, par cette interdiction permanente que nous avions de faire ce qui était de notre devoir de faire, que j'ai pensé qu'on pouvait organiser la résistance à l'oppression.
Dans un premier temps, j'ai demandé que soient constituées des petites cellules de 4-5 personnes se connaissant de tout temps, qui pourraient agir en commun, et dans le cadre légal aujourd'hui, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve, on verra bien, dans le cadre légal, nous pouvons reproduire des documents et les distribuer dans notre entourage, qu'il s'agisse du village, de la profession, des associations dans lesquelles nous sommes, de manière à faire avancer les pensées. Ça, c'est l'organisation de France Résistance. Nous avons mené un premier combat qui était la lutte contre le oui au référendum que tout le monde voulait. 93% à peu près des députés étaient pour. Ils ont voté d'ailleurs la modification de la Constitution avant même que le peuple se soit exprimé, ce qui est un mépris total du peuple. De plus, ils ont... après que le peuple se soit exprimé, ils émettent la prétention, et tu en parlais tout à l'heure au député Miard, qui heureusement lui n'est pas d'accord, ils émettent la prétention de rester sur leur ligne de conduite et de nous imposer de force cette constitution dont le peuple n'a pas voulu. Donc là, nous avons eu énormément de visites sur notre site. Nous ne travaillons que par site internet parce que nous n'avons pas de moyens. On ne demande pas de cotisation, d'ailleurs, c'est assez exceptionnel. Pas d'argent, pas de chef.
Pas d'argent, pas de Suisse, et ma porte.
Pas d'argent, pas de chef. Mais nous leur demandons d'agir. Et ça, c'est beaucoup plus, peut-être plus difficile, parce que il faut se mouiller. Si on veut retrouver notre souveraineté, il faut se mouiller, il faut travailler dans notre entourage. Ça coûte pas très cher de faire quelques reproductions de documents. Ça coûte pas très cher, on peut le faire et distribuer. Et donc, ça, c'était notre première bataille. Nous en avons maintenant une deuxième. Cette deuxième bataille, c'est sur la liberté d'expression. Et là, nous lançons une seconde série de directives pour que nos cellules puissent agir. Le peuple doit demander l'abolition des privilèges, car comme tu le sais, dans la période royale, il y avait, paraît-il, des privilèges.
Pour avoir des pigeonniers, c'est formidable.
Il y avait les gens de robe, les parlementaires, magistrats, juges, seigneuriaux, ecclésiastiques, les fermiers généraux, l'administration fiscale de l'époque.
Et ça existe toujours, ça s'appelle le trésorier payeur.
La noblesse qui détenait la puissance financière.
Oui, mais elle avait des obligations.
Et elle protégeait, bien sûr. Donc ces privilèges ont été abolis. Il y a eu la fameuse nuit du 4 août. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Que ces mêmes privilèges ont été rétablis, mais alors cette fois au profit de gens qui ne fournissent rien, à part de piquer dans les caisses publiques, qui ne produisent rien et qui mènent le pays à la décadence totale. Ils ont... Par exemple, nous avons, tout à l'heure j'ai pas voulu en parler, il y a une véritable oligarchie bicéphale, avec une tête à gauche et une tête à droite, qui dirige le pays. Et ils ont tout acquis. Ils ont l'exclusivité de la représentation du peuple en qualité d'élu de la nation. Une des auditrices a posé la question, pourquoi 15% de Français n'ont pas de représentants ? C'est un normal, c'est totalement anormal. Eh bien, nous allons demander deux choses. La première, c'est de rétablir le scrutin proportionnel. Il faut que toutes les nuances de la population puissent s'exprimer. Il faut qu'ils soient représentés, car Je le sais maintenant très bien, puisque pendant 2 ans, comme je disais à Miard, j'ai été à l'Assemblée, et je t'assure qu'en 2 ans, j'ai été le député le plus intervenant, 453 interventions en séance publique, à la tribune, c'est dire. Alors ça, c'est le premièrement, le scrutin proportionnel. Et deuxièmement, le référendum d'initiative populaire. Enfin, il est anormal que les Suisses aient ça de tout temps et que ça leur serve bien, et que nous, Français, le pays de la liberté, où le peuple est souverain, on n'ait pas la possibilité de faire un référendum.
Oui, j'ajouterai un détail. C'est d'ailleurs une des questions que Miard avait posées au moment du référendum en Algérie, sur la réconciliation, comme ils disent. Il avait demandé, mais de quel droit les binationaux algériens peuvent-ils voter en France pour un référendum en Algérie ? Alors, ça veut dire qu'on est dans une situation telle que, en France, les Français n'ont pas le droit de voter pour un référendum d'initiative populaire dont ils prendraient donc l'initiative eux-mêmes. Mais en revanche, s'ils ont une autre nationalité, par exemple la nationalité algérienne, eh bien ils ont parfaitement le droit. Mais c'est renversant, ce système.
Mais d'ailleurs, un des élus du Front National, qui est d'origine...
organisé par
d'origine musulmane, et qui s'appelle Farid Smaï, a demandé la suppression de la double nationalité, qui est totalement anormale, puisque d'autorité, tous les Algériens ont la nationalité l'inverse, lorsqu'ils sont français, ils ont la nationalité algérienne. On ne peut pas renoncer à la nationalité d'origine. Donc
c'est pas les seuls,
il y en a d'autres, mais disons, c'est le cas qui me vient parce que Farid l'a demandé. Oui. C'est un des leurs et il l'a demandé. Et puis il y a aussi tous les privilèges de juridiction et de procédures qui sont établies au bénéfice du président de la République, qui devient carrément un intouchable, des ministres, des députés, des sénateurs, des magistrats, des fermiers généraux qu'on appelle aujourd'hui les inspecteurs des impôts. De ce point de vue, les intéressés devront être soumis à la loi commune sans aucun privilège. Et ça, nous devons le demander et l'obtenir.
Alors, en ce qui concerne la proportionnelle, il y a d'ailleurs plusieurs auditeurs qui ont appelé en disant, mais il y a eu un papier d'Accoyer et de Bussereau dans le Figaro qui explique que la proportionnelle, c'est pas possible, parce que, en gros, c'est pas démocratique.
Je ne sais pas pourquoi les profiteurs du système veulent à tout prix maintenir leurs avantages.
On se le demande, hein, oui.
Hein, il faut croire qu'il y a ça leur permet d'avoir des voitures, des prébendes, des médailles, un tas de choses. Mais moi, ce que je dis, c'est que il n'y a pas d'impossibilité de gouverner. Nous l'avons prouvé, puisque en Picardie, pendant 6 ans, même 12 ans, nous avons fait élire Charles Bord, qui n'était pas du tout de nos amis, et nous avons soutenu tous ces projets qui étaient des bons projets. Ils ont le mépris des gens. Voilà la vérité, les Accoyer, compagnie, tous ces prébendiers. Ils ont le mépris des gens. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on est à l'Assemblée nationale et qu'on nous propose une loi qui est favorable au pays et à la population, eh bien, crois-moi, les patriotes français ne refusent pas de la voter, même si elle est présentée par un UMP ou un PS, même, qu'est-ce que ça peut faire ? C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils méprisent le peuple, ils ne font pas confiance aux hommes. Alors que moi, je crois que c'est le contraire qu'il faut. Il faut que nous allions présenter à l'Assemblée nationale des propositions et que nous votions les propositions qui seront favorables au redressement du pays. Qu'elles soient présentées par Pierre, par Paul ou par Jacques, ça n'a aucune importance.
Ou par Jean-Marie.
Jean-Marie aussi.
Si c'est par Jean-Marie, elles sont meilleures.
Pierre Descaves, Tu as autre chose à nous dire là, parce que il se prépare, j'en ai parlé au début de l'émission, une visite officielle de Chirac à l'occasion de la signature d'un traité d'amitié avec l'Algérie. Je précise que moi j'ai pas été consulté là-dessus. Moi, l'Algérie n'est pas un pays, en ce qui me concerne, n'est pas un pays ami.
Ah non,
c'est un pays voisin. Mm-hmm. C'est pas un pays ami. Ah, ça peut être un pays frère, selon la vieille explication qui était donnée par un élève roumain, justement, à son instituteur, qui lui disait cite-nous quatre pays amis. Alors il dit la Hongrie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Et le professeur lui dit l'URSS. Il dit non, l'URSS c'est pas un pays ami, c'est un pays frère. Mm-hmm. Alors quelle est la différence? Il dit ses amis, on les choisit, pas ses frères.
Juste avant ça, je voudrais rappeler le site de France Résistance, www.france-résistance.com. France-résistance.com.
Voilà.
Alors maintenant, je vais te parler de ce fameux traité d'amitié dont on nous rebat les oreilles. D'abord, qui prend l'initiative de cette opération? C'est Chirac. Mais Chirac est l'héritier des gaullistes. Or, à ma connaissance, les gaullistes et les FLN, non seulement ont déjà eu de l'amitié les uns pour les autres, mais ils se sont même aidés, ils ont été complices. Car c'est leur alliance qui a fait que les pieds noirs et les harkis et les Français musulmans ont été obligés de quitter leur pays. C'est à cause de leur alliance que nous avons eu des morts en quantité. Et par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire? Chirac Bouteflika, le chef FLN et le chef gaulliste qui font un traité d'amitié, ça ne veut rien dire. Pour qu'il y ait un véritable traité, il faut que ce soit entre des gens qui se sont combattus. Et si Monsieur Bouteflika acceptait de reconnaître que le FLN a commis des exactions, a commis des crimes, n'aurait peut-être pas dû faire ce qu'ils ont fait vis-à-vis des populations qui vivaient dans ce pays depuis 130 ans, peut-être qu'on pourrait envisager, car avant qu'il y ait les gaullistes, eh bien, on s'entendait très bien, nous. D'ailleurs, quand De Gaulle est arrivé à Alger, qu'est-ce qu'il a dit? Je vois qu'il y a ici des Français à part entière. Parce que toute la population était réunie, toute la population a fait le 13 mai. Il y avait autant de musulmans que de pieds noirs. C'est pas lui qui a inventé ça. Par contre, lui, il nous a dit quelque chose. Il nous a dit, moi, vivant, jamais le drapeau FLN ne flottera sur Alger. Et alors là, c'est un malheur, parce que cet homme a menti à des populations. Si après on a tué 150 000 harkis et leurs familles, c'est parce qu'il a menti, c'est parce que les gens ont cru qu'un général français ne pouvait pas mentir. Et c'est à cause de ça également que des officiers français ont rejoint l'OAS et que des gens comme moi, des simples Pékins, ben, nous avons aussi rejoint les rangs de ceux qui défendaient 15 départements français et l'éponge à pétrole du Sahara. Alors, on veut bien qu'il y ait une réconciliation, on veut bien tout ce qu'on veut, mais dans ce cas-là, il faut que M. Bouteflika, premièrement, cesse d'insulter la France, cesse d'insulter la colonisation française, cesse d'insulter l'armée française. Et nous demandons également qu'il faut que, de son côté, ils se repentent pour tous les crimes qu'ils ont commis à partir de 1954. Et
en échange de quoi, on relâchera tous les prisonniers.
Alors, il y a une manifestation qui va être organisée devant l'ambassade d'Algérie, place de Rio Janeiro, dans le 8e, le jeudi 3 novembre à 19h. Elle est organisée par les anciens détenus de l'Algérie française, par la griffe de Bernard Anthony et d'Alain Sanders. par le Cercle National des Combattants de Roger Olyndre et mon association qui s'appelle le Comité d'Action pour le Respect de la Mémoire des Civils et Militaires Morts pour l'Algérie Française demande de participer à cette manifestation où nous allons demander Bouteflika, repentance.
Merci Pierre. Alors je rappelle le site de France Résistance, www.france-resistance.com. Et puis on va donner la parole au marquis Chériguès de Olmeta,
oui,
d'illustre mémoire et de grande venue. Mais avant
on écoute. Vous,
mais on va pas écouter la Valse Joyeuse. Je vais vous faire écouter quelque chose.
Je sais, j'ai vu.
Vous allez avoir la larme à l'œil.
Ah oui.
I'll be your light, I'll be your shepherd.
C'était Valia Dmitrievitch, qui était une admirable chanteuse tzigane, et que tu as bien connue, Pierre, d'ailleurs.
Oui, elle est passée pendant de nombreuses années en vedette au cabaret Raspoutine. Son mari aussi, il jouait de la sur le disque.
Chantait là, magnifiquement.
Il chantait bien aussi. Et elle avait tout à fait des clients qui venaient uniquement pour l'entendre chanter.
C'était un personnage
extraordinaire.
C'était une idole. Et ce qui est amusant, c'est que ce disque vient de Russie. C'est alors ça. Que les Russes ne savaient même pas que les Dmitrievitch existaient, puisqu'ils étaient venus après la Révolution. Ils avaient fui la Révolution. Et ils les ont découverts il n'y a pas très très longtemps. Et alors ils en sont fous, complètement fous. Voilà.
Elle finissait souvent la nuit en chantant, hein, pas pour picoler, dans une boîte rue du colonel Moll qui s'appelait le Palata. J'ai des souvenirs émus parce que c'est en entendant chanter cette dame que parfois le prince Youssoupov me faisait un peu la cour.
Ah, voyez-vous ça. Je veux dire qu'il était extrêmement...
Après RT, je comprends. Ouais.
Alors, cette chanson qu'on vient d'entendre s'appelait Yavash Lubeo, ce qui veut dire « Je vous ai aimé » ou « Je vous aimais ». Voilà, je vous en ferai écouter d'autres parce que le disque, vous ne le trouverez pas en France. Alors Marquis, au lieu de, on n'a pas chanté la Veuve Joyeuse, mais ça remplace...
Je voulais être sérieux deux secondes, et après je vous dirai deux, trois petites choses. Pendant que nous avons fait cette émission, se déroulait à la chapelle de la Compassion une messe à l'intention des victimes de l'ouragan Katrina, et cette messe avait été organisée, enfin voulue par Monseigneur le Comte de Paris. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le déjeuner à la courtoisie, je t'assurerai de venir vous rejoindre. Tout à l'heure, on a parlé de l'enseignement, il y a une pièce de théâtre qu'il faut absolument aller voir au Petit Théâtre de Paris, qui s'intitule Le Meilleur Professeur, où il se dit sur scène qu'il y a des choses qui sont parfois un peu difficiles de dire à la radio, et c'est assez surprenant. Il y a entre autres une scène où on demande à un élève de décrire un acte raciste qu'il n'a pas vu, bien entendu, et le professeur d'histoire lui dit, bah, tu vas faire comme en histoire, invente. Et alors il raconte, il se souvient quand même qu'il y a quelque temps, il a vu un blanc qui avait pris une trempe par un noir, alors il écrit ça, et là c'est un scandale, il dit, non, faut raconter la même chose, mais dans l'autre sens. Rien que ça vaut le déplacement. On a appris aujourd'hui que Jacques Chirac allait de nouveau faire des voyages. C'est extraordinaire, ça repart. Bon, là, il part, je sais pas où, après, il va aller en Thaïlande. Enfin, moi, je pense qu'on a voté une bonne fois pour toutes pour une hôtesse de l'air. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Hier soir.
Toute ma vie, j'ai voté pour une hôtesse de l'air.
Voilà, toute ma vie, j'ai voté pour une hôtesse de l'air. Je voulais réconcilier tout le monde avec un peu l'Opéra Bastille, que moi, je continue à trouver un endroit tout à fait remarquable, non pas dans son architecture, surtout extérieure, mais à l'intérieur, quel que soit l'endroit où on est assis, au moins on voit et on entend. Et ensuite, il y a une machinerie exceptionnelle. Et en ce moment, on y donne la bohème dans la plus grande et la plus pure tradition. Ça se déroule pas dans une mine de sel en Silésie. Il n'y a pas de soldats SS qui défilent. On est dans le décor de la chambre de Mimi. Et puis après, on est au bistrot du coin avec tous les jeunes rapins. La mise en scène n'a rien d'extraordinaire. Elle est simplement comme ça doit être et fournie en figuration, en chœur. Et c'est admirablement chanté et admirablement dirigé. Et c'était plein hier soir et ça sera encore plein ce soir. Mais peut-être qu'en vous bougeant un peu, vous pouvez avoir des places. Ne loupez pas cette sublime, sublime, sublime bohème. Et en ce moment, il y a Angela Marambio qui chante le rôle de Mimi. Et hier soir, je ne sais pas tout juste si les gens ne sont pas montés pour la porter en triomphe. Ça, c'est la standing ovation. C'est pas la standing ovation de merde de chez Fogiel ou ailleurs. C'est le truc qui dure 20 minutes, les gens debout, parce que c'est le grand chant. Ah. Voilà. Voilà, je voulais vous dire ça. Ça réconcilie quand même.
Oui. Merci, cher Marquis, cher Gaston. Je dis votre nom parce qu'on m'a reproché de ne pas dire votre nom, alors que nous avons des milliers d'auditeurs supplémentaires.
Je suis bien incognito, c'est foutu.
Tous les jours. Et on m'a fait remarquer, vous parlez du Marquis, mais le Marquis, vous savez qui c'est, les milliers d'auditeurs le savent.
Il n'y en a pas qu'un en France, il faut leur dire.
Non, mais vous êtes notre Marquis.
En voilà.
Fait. Le nôtre, il n'y en a qu'un.
C'est le nôtre.
Qu'est-ce que vous voulez nous dire, ma petite Victoria, encore ?
Ben, tout à l'heure, vous avez fait des déclarations, là. Alors, une auditrice vous dit, attention, cher Serge, ne prenez pas que vos copains à votre table. J'ai demandé à être à la vôtre et j'aimerais bien que cela se fasse.
Ah non, non, mais c'est pas moi. Je choisis pas du tout. Je ne choisis pas du tout les personnes qui viendront à notre table, puisque ma petite femme adorée, que j'embrasse d'ailleurs, sera là aussi.
Moi aussi.
Vous aussi.
Et moi aussi.
Bah alors, bon, écoutez.
Il n'y a pas de raison.
Non. Si vous on va quand même pas vous faire une scène pour être à votre table, si vous voyez ce que
ça
je
sera,
veux dire.
Oui, mon ça sera idée. Donc à notre table. C'est pas moi qui choisis. Bon, j'ai dit au marquis, vous venez, parce que...
Il vient seul, le marquis, voilà. Là, il vient pas avec ses enfants.
Il vient pas en famille. Et donc, il reste encore de la place.
240.
À ma table, je sais pas s'il y a
240 couverts, non.
Je sais pas du tout comment ça sera arrangé, mais ça sera bien, comme d'habitude.
Un peu dérangé par les décatchs, peut-être, non.
Et on parlera de la langue française. C'est pour ça que j'espère que Victoria viendra pour recevoir
non,
le
viens
prix,
pas,
le
moi
prix
je suis
d'Odé.
Pas, on a assez bonne santé.
Alors un auditeur demande aussi quel est le prix d'Odé, quel est le prix. Alors je sais pas, mais pour le prix d'Odu, est-ce que ça sera un livre? J'ai dit non, ce sera pas un livre, ce sera...
Au kilo.
Au kilo, voilà. Voilà. C'est tout.
Moi j'avais un petit message qui m'avait fait rire. C'est bon, une question. Le canard enchaîné, et par extension ses lecteurs, sont-ils susceptibles d'attraper la grippe aviaire?
Ça, c'est un bon slogan. Ne lisez plus le canard enchaîné, vous risquez la grippe aviaire. Non, non, le canard enchaîné, c'est pas ma tasse de thé, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même 2-3 informations dedans. C'est normal, tous les fonctionnaires, c'est-à-dire 30% de la population au travail, tout 30% de la population salariée en France lit le canard enchaîné et envoie des informations. Alors, voilà. Dans le tas, il doit y en avoir qui sont intéressantes.
Et puis j'ai deux annonces, je peux
Faites
les faire.
Ça.
Alors mardi 25 octobre à 20h, dans le cadre des conférences du mardi du Centre Saint-Paul, le père Édouard-Marie Gallès parlera du nouveau sur les origines de l'islam et il dédicacera son livre. Et puis, sous le patronage de l'Association des Parcs et Jardins d'Aquitaine, 13e journée des plantes et de la gastronomie, le mardi 25 octobre, de 9h à 18h, au potager de Poutet. Au programme, échange de plantes vivaces, conférence de François Blachon, paysagiste, Michel Doria, pépiniériste entrepreneur, Philippe Durcy, des Jardins de la Brande, auteur de Rêves de cabane, présenté en son temps, démonstration de Plessis, bordure en châtaignier tressé, démonstration de bouquets d'automne et de Noël par Catherine de la Source, déjeuner autour de plats inédits apportés par les participants. Participation 7 euros. Renseignements et inscriptions auprès de Catherine de la Source au château de Poutet, 24500 MET, téléphone 05 53 23 81 21 ou 06 61 72 05 65.
Juste un mot pour saluer Simone et Thérèse de Versailles, mes ravissantes pintades que j'aime beaucoup, qui m'ont fait passer deux photos qui ont été prises au Pré-Catelan lors de la visite du prince. Et je suis très sensible. C'est un ami qui nous a donné hier soir à l'entracte à l'opéra.
Alors, merci à nos pintades.
Alors. Merci à nos ravissantes, gentilles et spirituelles pintades.
Comme il nous reste un tout petit peu de temps, je voudrais faire une, et très exceptionnellement, une petite rubrique gastronomique pour vous rappeler des adresses amies. Parce que c'est vrai qu'on cherche parfois des endroits où aller. Alors, il y a un endroit qui est magnifique pour sa choucroute. Mais non, c'est pas très gastronomique, 4 places françaises. Un endroit magnifique pour sa choucroute, c'est l'Alsaco, qui est 10 rue Condorcet, je crois.
C'est ça.
Il y a également un endroit qui est charmant, et je vous invite à y aller parce que le nom est magnifique, ça s'appelle la Mer Agitée, c'est tenu par notre ami Valoche. Et ça se trouve rue Valoche. Campagne Première, c'est 25. Oui, je l'appelle Valoche, moi, parce qu'elle s'appelle Valérie. C'est mignon, Valoche.
Valoche.
21, c'est 21 ou 25 rue Campagne Première.
Oh, ça,
21 rue Campagne Première.
De toute façon,
voilà.
Ça se voit.
Il y a un endroit, alors là, je regrette vraiment de n'en avoir pratiquement jamais parlé, qui est un endroit incroyable à Paris, au pied de la Tour Saint-Jacques. Ça s'appelle le bar tabac des Templiers.
Oh, c'est inouï, ça.
Alors, c'est un bistrot tabac PMU. Alors, d'extérieur, vous n'avez l'impression rien, quoi. Un bistrot tabac PMU. Et vous entrez, c'est un musée royaliste et traditionnaliste avec des statues de Jeanne d'Arc, des drapeaux fleurs de lys.
C'est inouï.
C'est un endroit.
Vous connaissez pas ça?
Ben, si, bien sûr. Ah, bah, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Et alors, le résultat de notre silence, parce qu'on avait l'impression que tout le monde le connaissait, c'est que ils ont de plus en plus de mal à faire face, pour une raison simple, c'est que leur réputation de cet établissement royaliste a fait tache d'huile dans un quartier de bobos. Donc les gens fréquentent de moins en moins, et dans notre famille royaliste, on n'y va pas parce que c'est un bar tabac et que c'est pas très chic et c'est populo, il y a des gars qui rappent du coin qui vient faire son PMU, etc., etc. Or, il faut aller voir cette maison d'abord,
absolument,
parce qu'on y mange bien, on y boit de bons coups, on peut y chanter.
Oui.
Et puis c'est des gens adorables, et vous savez qu'ils ont un principe, ça c'est le principe du temple, ça s'appelle pas les Templiers par hasard, c'est parce qu'ils appliquent la règle du temple qui est d'être un établissement, un endroit où on accueille les gens.
Oui, oui.
Et ça fonctionne sans arrêt, 24 heures sur 24, vous allez vous êtes reçu, vous pouvez boire et manger, etc. Et donc il faut y aller, c'est 35 rue de Rivoli.
Oui,
si vous voulez découvrir un des endroits les plus pittoresques de Paris, faites-le rapidement. Parce que
Il faut les aider, quoi. Allons-y, voilà.
Le patron soit obligé de vendre rapidement l'admirable bibliothèque qu'il a.
Oui, au premier étage.
Au premier étage, qui est une pure splendeur. Voilà, 35 rue de Rivoli, le bar tabac des Templiers. Et enfin, une adresse toute nouvelle que je vous recommande si vous voulez un endroit élégant, avec une cuisine absolument délicieuse, à un prix très raisonnable. Le décor est parfait. Enfin, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Ça s'appelle Les Ronchons. Et c'est... Oui, oui, on va y aller ensemble.
Ça nous va, c'est bien, ouais. Ça, oui.
Mais alors, le nom est un peu comme ça, mais le décor est très élégant. La cuisine, je le répète, est délicieuse. Les prix sont raisonnables. L'accueil est charmant. C'est tenu par des gens qui nous aiment beaucoup, qui sont des auditeurs de Radio Courtoisie, etc. Ça se trouve 25 ou 21. Toujours, j'ai ce problème de nombre. C'est quai de la Tournelle, c'est pas compliqué. C'est à une portée de noyaux de cerise de la Tour d'Argent. Mais c'est moins cher. Mais c'est presque aussi bien.
Oh, ça, c'est
voilà.
Sûrement mieux même.
Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir supporté nos foucades, nos plaisanteries de de mauvais aloi. Merci d'avoir écouté mes invités surtout, parce que c'est vrai que dans cette émission, c'est un peu surprenant d'entendre un député UMP, mais moi j'ai eu beaucoup de plaisir à recevoir M. Jacques Maire, qui est un personnage finalement assez... enfin très lyonnais, quoi. Hein. Bon, on voit. Et à bientôt pour de nouvelles aventures, c'est-à-dire à la semaine prochaine.
Merci Victoria.
Et que Dieu nous garde.
Bien sûr.